Coucou, c'est Romaric Briand. Vous écoutez La Cellule, podcast critique des jeux de rôle. Vous pouvez me soutenir en souscrivant à mon Patreon ou bien soutenir mes invités en achetant leurs jeux. Bonne écoute!
Ok.
Ok, est-ce que j'ai mon ok?
Allez, c'est parti. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast quasi mensuel de La Cellule aujourd'hui avec Flavie. Flavie, ça va la pêche?
Ouais, la pêche, la banane. Près d'Halloween, je vous ai ramené un jeu qui joue sur la peur qui s'appelle Antise.
Et nous allons y jouer avec François.
Salut, la pêche, la banane. Je suis terrifié.
Ouais,
ça fait une demi-heure qu'on est arrivé, une demi-heure que je suis pas bien.
Ouais. Et il paraît que t'es très sensible à
et
tout ce
qui est film d'horreur, jeu d'horreur.
Et on n'a pas commencé
à jouer, hein, tu sais.
Je suis extrêmement peureux dans la vie, donc c'est une catastrophe.
On n'a pas commencé à jouer, tu sais, tout va bien.
J'ai déjà peur.
Bah oui, mais tu vas finir en apport.
Tu auras peur.
C'est qui ce gars derrière la fenêtre, là?
Commence pas. Je savais que Géraldine, ça va la pêche, la banane.
Ouais, non, moi, en fait. Moi, pas du tout. Je suis pas du tout bien.
Tu viens de quitter ton brise-lame, là.
C'est ça.
Pour venir te faire peur à la baronnie.
Ouais, pas du tout envie.
Dans cette petite maison de campagne.
Ouais, c'est ça, en plus. L'horreur. Est-ce qu'on a le droit de crier? Je crie très fort.
Oui.
J'ai prévenu les enfants.
Okay.
Alors, c'est le seul endroit de la maison où vous ne pourrez pas jouer.
On va expliquer un petit peu. Les zones
mais
de
ils
la
sont
maison.
Prévenus et donc ils sont prévenus que quand ils entendent crier, en fait, ça veut dire qu'on s'amuse.
Ok.
Très bien. Nous sommes également avec Claire. Claire, bonjour.
Bonjour.
Ça va, première sur la cellule. Ça me fait très plaisir de t'accueillir. Est-ce que tu pourrais te présenter Ça, c'est ce que j'appelle une belle ovation. Est-ce que tu pourrais te présenter rapidement pour nos auditeurs auditrices, joueuse?
Oui, moi j'aime bien jouer. Alors plutôt d'ordinaire en jeu de rôle à Donjons et Dragons.
Ah, c'est bien une de jeuneuse qui nous rejoint.
Un jeu qui fait débat.
Un jeu qui fait débat. Pas du tout. C'est son hégémonie qui fait débat. La qualité du jeu est excellente. Donc voilà. Donc très bien. Donjons et Dragons en jeu de rôle, mais sinon en jeu de société.
En jeu de société, sinon plutôt exploratrice de tout ce qui peut se jouer en général, les petits jeux pour s'amuser à l'apéro, les jeux d'ambiance pour la soirée.
Anti, c'est fait pour toi là.
C'est pas sûr, je suis très douée pour me faire peur.
J'ai une table de peureux, vous allez tellement prendre cher.
Ce que j'adore, c'est que François lui a vendu la cellule en mode « Oui, tu veux, viens Claire, tu verras, ce sera trop cool, on va te mettre en confiance. » Et en fait, le premier jeu, c'est un jeu qui fout les jetons.
Faut jamais me faire confiance. Dans Première erreur.
Sinon, d'habitude, on rit beaucoup. Hein.
Et nous sommes également avec Antoine, je m'en fous, ça va la pêche.
Salaud. Ça va me coller à la peau, cette histoire.
Ah oui, ça va te coller à la peau.
Ouais, ravi d'être là et ravi d'utiliser enfin la baronnie pour un film d'horreur. Un jeu d'horreur.
Un jeu d'horreur.
Est-ce que t'as caché des caméras?
Non.
Infrarouge.
Non, mais j'aurais dû.
Est-ce que t'as caché des cadavres?
Peut-être.
J'espère.
Peut-être. J'aurai des anecdotes à te raconter sur la baronnie, mais ce sera en dehors des micros pour la sécurité. Alors, Flavie, c'est toi qui nous ramène ce jeu Antise de
quoi qu'il s'agit. Il faut savoir que depuis l'année... Alors déjà, je me renseigne, en fait, je suis intéressée pour comprendre les mécanismes qui font peur dans les jeux et dans les jeux de rôle. Depuis déjà 2 ans, je me questionne... C'est un truc qui me questionne. Et pour ceux qui suivent, depuis l'année dernière, je suis aussi questionnante sur les jeux que je peux trouver dans le commerce qui me font penser soit à des jeux de rôle, soit à des jeux à des GN, soit à des trucs un peu atypiques à mi-chemin entre tout ça pour tirer en fait des idées de règles ou des idées de fonctionnement.
Tu disais la saison dernière, qu'en ce moment, une grande tendance, c'est de casser la frontière entre jeux de rôle et jeux de société.
Et celui-là, je trouve qu'il casse la frontière entre jeux de société, GN et jeux de rôle.
Jeux d'horreur, jeux freeform,
Ouais, carrément.
GN, on rappelle jeux de rôle grandeur nature, et d'où le GN.
Ouais.
Grandeur nature.
Donc, d'ailleurs, dans ce jeu, il y a ce qu'on appelle un MDC, un maître de cérémonie ou une maîtresse de cérémonie, et ce sera moi.
Voilà.
Donc, l'idée de ce jeu, c'est de transformer l'endroit où on est en un espace hanté, qu'il va falloir libérer de ses esprits. De ces esprits frappeurs. Alors, il faut savoir.
François terrible.
Bien, François.
De vrai. J'adore, il est replié là, avec sa petite capuche. Oh là là.
Visualiser où on joue. On serait dans un appartement en plein centre-ville, ça va. On est dans un manoir. premier degré, c'est terrifiant déjà.
Sachant qu'il sera dans le noir et que pour y jouer, vous aurez uniquement le droit de vous servir, alors pas de la lampe de vos téléphones, mais de vos écrans de téléphone pour faire de la lumière. Voilà. Le seul endroit où j'ai laissé une lumière, c'est en haut, tout en haut de l'escalier, pour pas que vous vous cassiez la figure. Et aussi parce que c'est l'endroit le plus terrifiant de la maison. Donc je me suis dit que laisser une petite lumière en haut, ce serait pas une mauvaise idée.
C'est vrai que c'est un endroit assez dangereux, l'escalier il finit un peu en bizarre.
Et pour les grands, faites attention aux poutres, elles sont basses.
Elles ont tué plus
d'un
rôliste.
En fait, vous m'en voulez, quoi. <C'est ça.
rire> Donc l'idée, c'est qu'en fait, la maison est possédée et vous êtes des médiums.
Ah, c'est vrai.
Qui vont venir pour libérer, en fait, la maison des esprits. Le problème, c'est que les premiers médiums qui sont partis, en fait, vont être possédés et se cachent dans une partie de la maison, selon des cartes. Il y a déjà Géraldine qui est en train de grogner. Et donc...
C'est quoi ? J'ai du travail, finalement.
Tu retournes à la cave ?
Je retourne travailler.
Et donc, les médiums vont devoir aller, en fait, les déposséder, les libérer. Sachant qu'en fait tout ça, alors j'ai mis en place l'espace de cérémonie dans la pièce qui se trouve au milieu de la maison, qui est donc notre chambre. Donc vous verrez, j'ai mis en place un petit setup un peu sympa avec des petites bougies, des petits attamés, histoire que c'est un peu plus rigolo. Et en fait, chacun tire des cartes en fait de gage ou des cartes qui vous indiquent si vous êtes possédé ou pas. Hein, je vous expliquerai au fur et à mesure.
D'accord. Ouais.
Et sur chaque carte, en fait, vous avez une petite mission à réaliser.
Donc les cartes, elles sont déjà là-haut.
Ouais, tout est installé. L'espace de jeu, en fait, est assez petit parce qu'en fait, le vrai espace de jeu, c'est la maison et la carte que vous avez sur laquelle il y a une mission que vous pouvez mettre dans vos poches.
Est-ce qu'on peut être ensemble ?
Oui, alors en fait, on va en parler, mais en gros, pendant la cérémonie, tout le monde prend à coup, exactement. Pendant la cérémonie, tout le monde prend, certains prennent en fait une carte médium et certains à qui je donne une carte possédée. Moi-même, en tant que maîtresse de cérémonie, j'ai une carte à prendre. Vu que c'est ma première partie en tant que maîtresse de cérémonie, je ne suis pas obligée d'appliquer la mission, mais je vais essayer au maximum. Et donc, les possédés partent dans la maison mettre en place leur mission. Et vous, en fait, les médiums, vous restez dans l'espace où vous êtes, où se trouve la cérémonie, pour mettre en place votre... comment vous voulez arranger ça. Et donc, du coup, ensuite, je vous dis quand vous pouvez partir. Et là, une session de jeu dure à peu près 4 minutes. Puis à un moment, quand j'estime que ça fait assez longtemps, je vous annonce en fait qu'il faut revenir. Donc je dis la cérémonie recommence et tout le monde revient. Et là, on fait le point. Ouais.
Attends, et là, j'ai pas entendu ce que Géraldine a dit. Il faut,
les posséder également.
Oui, les posséder
tout
également.
Tout le monde revient. D'accord.
Sauf. Sauf.
Le chien.
Quel chien.
Sauf ceux
le mort-vivant.
Bloqué. Voilà. Tous les médiums qui ne sont pas possédés ou bloqués doivent revenir dans la salle de cérémonie.
Comment ça, ceux qui sont bloqués?
Eh bien, quand vous allez aller... Oui, c'est aussi pour ça que j'ai laissé les fenêtres. Je vous expliquerai après.
J'avais pas vu, mais le parasol blanc qui flotte à l'extérieur sur la terrasse, il est horrible.
Oui, alors il s'avère qu'en tant que médium, si vous échouez en fait dans ce que vous allez faire, vous pouvez vous faire attraper du coup par le joueur qui est possédé, auquel cas vous devez rester avec lui et écouter tout ce qu'il vous dit.
D'accord.
Et faire ce qu'il vous dit. Voilà. Et une fois qu'on a fait la cérémonie, tout le monde repart pour faire...
Les cartes et on commence.
Du coup, tu dis, bon, c'est bon, tout le monde revenait dans la salle, et là, personne répond.
Eh bien, dans ces cas-là, c'est qu'on a perdu, que c'est les esprits qui ont gagné.
Okay.
Ensuite, pendant la cérémonie, chacun, on va faire le point, en fait, sur qui a réussi sa mission ou pas. S'il y a plus de pouces... En fait, quand on a réussi, on annonce le pouce, mais on ne dit pas la mission qu'on devait réaliser. On met dans une boîte que j'ai. Si on a réussi, on met le pouce vers le bas. Et s'il y a plus de pouces vers le haut, on fait avancer. Il y a un petit système de chandelles.
Attends, si on a réussi, on met le pouce vers le
haut. Si on a raté, on met le pouce vers le bas.
Voilà, parce que tu as dit l'inverse.
Ah, pardon. Ouais. Et du coup, si on a réussi, on fait avancer des petites chandelles. Il y a 3 espaces de chandelles, en fait, qui sont sur 3 cartes de divination. Le but, c'est de les faire toutes sortir. Et quand on arrive à faire déplacer la première partie des chandelles, on libère une carte divination, ça va être des gages à faire en plus. Et on a ensuite une deuxième carte à libérer et la dernière carte à libérer qui permet de sauver la partie. J'ai trouvé ce jeu, alors je ne sais pas comment il va être jouable.
Ça a l'air ouf.
Je l'ai trouvé très très clair de prise en main.
D'accord, ok.
Donc je ne sais pas si ce sera aussi clair pendant que je vais jouer, mais je l'ai trouvé hyper clair de prise en main, hyper chouette. J'ai plein de choses en tête où j'espère que ça va marcher. Du coup, il y avait plusieurs setups. Moi, ce que j'ai trouvé cool, c'est qu'il y a des setups pour jouer dehors, il y a des setups pour jouer dans la forêt. Il y a des cartes de gage, mais du coup, j'ai, par exemple, je sais que Romaric, il n'aime pas trop qu'on le touche, donc j'ai enlevé toutes les cartes qui indiquaient toucher.
Sauf une.
Avec son nom dessous. j'ai gardé les cartes pour jouer dans les maisons. J'ai gardé les cartes pour jouer en mode difficile, en gros les cartes qui font un peu peur. Mais globalement, dites-vous que tout va bien se passer. On est dans un espace tranquille, c'est déjà terrifiant.
Ça va bien se passer, ça va bien se passer.
On est tous blancs.
Et on peut jouer jusqu'à combien de jeux alors? Ça a l'air très drôle.
6 à 12.
Ah oui, bah ouais. 6 à 12.
Et est-ce que les rôles peuvent s'inverser?
Oui, au niveau des mesures. Oui, d'ailleurs, quand à un moment je vous ferai revenir, il y aura des moments où du coup, ce ne sera pas les mêmes gens qui seront possédés ou sauveurs. Oh. Et vous avez aussi un autre truc à comprendre, c'est qu'il y a une boîte qui est cachée, qui est mise en fait dans l'endroit le plus terrifiant de la maison, qui est du coup dans le bureau de Romaric tout en haut. Qui est une boîte avec un symbole où c'est en gros une sorte de cercle avec une croix dessus. Et vous aurez des choses à faire avec, avec cette boîte. Voilà.
C'est pas n'importe quel cercle, c'est l'étoile à 8 branches du chaos.
Oui.
Oui, oui.
C'est des bonnes nouvelles.
Bah oui, ça va être rigolo. Donc voilà, est-ce que vous avez des questions?
Je peux partir.
Non, tu ne peux
aussi,
pas.
T'as du travail.
Tout le monde est OK avec le dispositif?
Ouais, j'aurais des questions à reposer après. Je vais okay. Pas sur le podcast.
Sinon, tu peux. Hein, tu peux.
Non, mais je
pense. Faut que je joue.
Faut avoir. Ouais, pareil. Ouais. Faut voir le matériel. C'est vrai que là, tu nous présentes le dispositif sans le matériel. On s'imagine seulement. Mais
en fait,
on va
pour l'instant, je voulais faire ça avant. Et ouais, qu'en fait, on débrief après parce que j'ai mis en place des petits dispositifs au fur et à mesure. Donc, dans la maison.
Juste pour savoir où on en est. Antoine, tu as déjà joué à ce jeu. Je tiens à le préciser. Voilà.
Une fois. Au chalet.
Une fois au chalet.
Mais je savais même pas qu'il s'appelait Antise, tu vois. Enfin, on m'a dit, ouais, il y a un jeu cool. Non, c'est vrai que c'est très simple, c'est très facile.
Le chalet, tu pensais que c'était le tribunal.
Je n'ai jamais fait peur à mes filles, sauf une fois au chalet, avec Antise. Ok, et t'avais trouvé ça très cool à l'époque déjà?
Ouais, ça repose essentiellement, je pense, sur notre capacité à faire peur. Oui. Le jeu, c'est ça. Hein,
nous,
c'est
on
faire
a une grande capacité à avoir peur. Donc...
Voilà.
ça doit mais bien marcher aussi,
mais
en fait.
Pour ceux qui aiment faire peur, c'est génial.
Ok, d'accord. Oh là 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 là. Donc,
une partie dure environ une demi-heure.
Donc pour présenter la maison, donc tout le rez-de-chaussée c'est OK pour jouer. Le premier étage, donc il y a les chambres des enfants sur la gauche quand on monte l'escalier. La porte de gauche est fermée, vous verrez. Donc là on n'y va pas. Et tout en haut, au deuxième étage, il y a la porte de gauche aussi quand vous montez est fermée. C'est les appartements des chats d'Antoine.
Oui, il y a le démon, les démons.
Les démons, les deux démons.
Donc si vous entendez, c'est pas moi qui suis complètement cinglée en cachant des sons de chat.
En plus, il gratte à la porte en ce moment.
C'est pas moi qui ai fait ça. En fait, ce sont les chats d'Antoine.
C'était pas des chiens, c'était des chats.
Des chats sphinx.
Mais du coup, j'ai pris un setup où on entend des grattements.
Trop bien, trop génial, on adore.
Voilà.
Bon, eh bien, si vous n'avez pas de nouvelles de nous, chers auditeurs, auditrices, eh bien, c'est que nous aurons disparu. À tout à l'heure.
Ah ah.
Comment c'est ? Ah, si, non, mais prends le micro. Qu'est-ce que tu disais ? Vas-y. Non. Mais si, ça a commencé, vas-y. Qu'est-ce que tu disais, Antoine ? Tu disais quoi ?
Non, je disais juste, c'était une hypothèse. Je pensais que le jeu se prête bien. La mise en place du jeu, je pense, elle est meilleure si la pièce celle qui fait le plus peur, c'est ça ? C'est là où on met la boîte.
Ouais, c'est ça.
Si c'est la fin d'un parcours, quoi. Si on trace en fait un parcours, parce que des fois on se cache pour faire peur et personne vient te voir. D'accord, parce que okay. À part si tu les appelles, venez.
Parce que là, en fait, le truc, c'est que la pièce de la cérémonie qui est donc le cœur du jeu, d'où les médiums partent et les possédés partent.
Ouais, la pièce de départ.
Était au milieu en fait du dispositif, c'est ça. Donc on va débriefer tout ça. Ils arrivent avec les tisanes. Mais oui, en tout cas, vraie sensation. Hein. Vraie sensation. Jouer à se faire peur comme ça, comme quand on était gamin, c'était vraiment super sympa. Comment décrire le dispositif hein qui veut essayer de décrire comment ça se passe? Sinon, je me lance comme d'habitude. À chaque fois, c'est moi qui
Si tu attends que j'ai fini de servir les tisanes, je veux bien.
D'accord, ok.
Tu veux un petit truc?
T'as fait quoi, toi? Un truc pour me réconforter, très viril. Grenade.
Très viril.
Je sais, il n'y a que des trucs virils.
Un truc très viril.
Une boisson de bonhomme. De mec dur qui n'a pas du tout crié.
Il y a des petits gâteaux.
Oui, je vais prendre un petit gâteau. Merci. Je vais pisser dessus, du coup, c'est déjà pas mal.
17e saison, à un moment, on vieillit.
Le polydent, François. Le polydent.
Très bien.
Des couches gériatriques qu'il me faut.
Je vais pouvoir décrire du coup le dispositif. Quand on est, j'ai choisi la salle de cérémonie. Quand vous arrivez, il y a une petite table sur laquelle j'ai disposé en fait le petit plateau qui est constitué de trois petites plaquettes sur lesquelles il y a des cartes retournées. Sur les cartes, il y a différents petits jetons bougies. Et autour, il y a des cartes possédées, des cartes sauveurs et des cartes pour le maître de cérémonie. Et évidemment, j'avais mis autour, pour que ce soit un peu plus flippant, des petites bougies comme si c'était un rituel satanique parce que c'était rigolo. Voilà. Et on est tous autour de la table et moi du coup je lis la première carte qui est dévolue au maître de cérémonie qui explique le setup, à savoir qu'il y a des grattements dans la maison, que des gens en fait ont fait venir différentes personnes dont des gens pour éliminer les souris et qu'en fait personne n'a jamais rien trouvé et qu'en mettant leur oreille contre les murs, en fait ils se sont rendus compte qu'ils entendaient des respirations, donc ils ont fait venir des médiums, à savoir les joueurs autour de la table. Alors ouais. Ça se joue à partir de 6, mais en comptant le maître de cérémonie comme faisant partie des joueurs. Ouais. Donc on était nickel. Et donc je donne à chacun une carte possédée ou une carte sauveur. L'ordre est décrit au début, je dois donner à ma gauche en fait une carte possédée, puis ensuite intervertir, et ensuite au fur et à mesure des rounds, entre guillemets, je changerai. Chacun lit ce qu'il a à faire, il y a des petites missions. Les possédés partent en premier, on attend un petit peu, et puis là je regarde les sauveurs en tant que maîtresse de cérémonie, et je dis sauveur, je ne sais plus.
Alors, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a des cartes noires et des cartes
sauveur,
blanches.
Sauveur, je compte sur vous.
Des cartes noires et des cartes blanches. Les cartes noires vont être distribuées aux possédés. Lorsqu'un joueur reçoit une carte noire, il comprend alors qu'il est possédé. Sur sa carte noire figure une mission. Une mission généralement terrorisante. C'est-à-dire qu'en gros, le possédé va devoir faire peur. Il est dans le rôle de faire peur. Il a éventuellement une petite mise en scène à faire qui est signalée sur sa carte. Et il y a deux conditions pour lui. Soit, en gros, il réussit sa mission et se libère. Non, enfin, c'est compliqué. Il a deux conditions. Une condition de libération et une condition d'emprisonnement de quelqu'un ayant une carte blanche. Donc, je vous rappelle, les cartes noires sont distribuées aux possédés. Les cartes blanches sont distribuées aux médiums. Le principe d'un médium dans une séance de spiritisme, c'est qu'il va faire l'interface entre les esprits et les êtres autour de la table. Donc quand un possédé réussit à effrayer un médium, il peut à ce moment-là faire de ce médium un possédé, et donc le tourner en fait en un sens. Si un médium devient un possédé, il doit rester à côté de la personne qui l'a possédé. Entre guillemets, on va dire les pions blancs, c'est les médiums, les pions noirs, c'est les possédés. Les pions noirs ont pour objectif de faire peur aux médiums. S'ils y parviennent, ils transforment un pion blanc en pion noir. Pour faire très simple. Hein, c'est... Ouais. Et donc, du coup, ensuite, Flavie, toi, en tant que maîtresse de cérémonie, tu rappelles tout le monde.
Je rappelle tout le monde, je dis la cérémonie recommence.
Voilà. À ce moment-là, seuls les médiums, donc les pions blancs, remontent.
et les possédés qui ne sont plus possédés, qui ont été libérés.
Voilà, parce que certains pions noirs, sous condition, peuvent devenir des pions blancs. C'est-à-dire que, par exemple, il y a un exemple qui est très parlant, c'est l'exemple de la carte de François. François, à un moment donné, donc, tu jouais un possédé, tu étais en possession d'une carte noire. Et ton objectif, en tant que possédé, c'était de donner la carte noire à un médium. À ce moment-là, le médium devenait un possédé et toi, tu devenais un médium. Tu te transformais.
J'étais libéré. Donc, je retournais dans la salle de cérémonie, effectivement. Voilà.
Une fois qu'on a dit ça, quand Flavie, maîtresse de cérémonie, rappelle les pions blancs en haut, chacune doit indiquer si elle a réussi sa mission ou non. Le pion blanc indique s'il a réussi à faire ce qu'il devait faire ou à accomplir son objectif, etc., etc. Plus il y a de pouces levés autour de la table à ce moment-là, c'est-à-dire plus il y a de missions réussies, plus on gagne des points. Et l'objectif...
Plus on fait passer des chandelles, en fait, on fait avancer les chandelles sur les cartes de divination. Il y en a 3. Et le but, en fait, c'est de passer... Il y a autant... Sur la première carte de divination... Il y a le même nombre de chandelles que le nombre de joueurs. Mmh. Sur la deuxième, il y a 3 chandelles. Sur la dernière, il y en a 2. Le but, c'est de les faire pousser quand on lève le pouce. Ouais. Pour chaque pouce levé, on fait passer des chandelles vers la droite. Voilà. Le but étant de les sortir du plateau.
Ça fait un petit peu 3 phases de jeu. Une phase qui a 2 points de vie. Mmh. Comme les 2 points de vie se déplacent sur la carte numéro 2, la carte numéro 2 se retrouve avec 5 points de vie. Donc la phase 2 a 5 points de vie. Quand les 5 points de vie ont été vaincus, on passe à la phase 3, et la phase 3 a tous les jetons, à savoir, ici par exemple on était à 6, à la fin on finit à 12 jetons.
C'est alors bien ça. Là, à la fin, on avait 6 jetons, on avait sorti...
Je veux dire, la phase 3, si on veut la vaincre, il faut enlever 12 jetons.
Exactement. Ouais, mais en fur et à mesure, en fait, oui, c'est ça, pardon. Oui, en fait, à un moment, on s'est retrouvé avec 12 jetons, on a réussi à en sortir un. Puis en fait, il y en a plein qu'on fait des trucs qu'il ne fallait pas faire.
On va raconter ça, ouais. Donc chaque phase de jeu, donc à la phase 1, en fait, la première carte, elle a 2 points de vie. Donc si on réussit 2 missions, on passe à la phase 2. En fait, ce qu'il faut dire, c'est qu'à partir du moment où on a accompli la phase 1, on retourne la carte. Et la carte, par exemple, autour de la table de cérémonie, elle nous dit « Les médiums n'ont plus le droit de dire oui ou non. »
Et ça, ça a été difficile à tenir. Et du coup, on a fait repasser des petites chandelles vers la gauche. Du coup.
Surtout qu'à un moment donné, j'avais une carte, c'était de répondre « Oui, maître » à tout le monde. Oui, et Géraldine s'est amusée à me parler constamment. Genre, tu vas bien, François ? T'as peur, François ? Tu m'accompagnes, François ? Donc à chaque fois, c'est « Oui, maître ». Oui, maître. Parce que j'ai le droit de dire absolument rien d'autre. Et donc, on a perdu au moins 3 pions. Bravo, bravo, oui, Géraldine. Alors, félicitations.
C'était pendant.
Non, c'était autour de la table qu'elle a fait ça.
Ah non.
Et à partir du moment où j'avais la carte, je ne devais répondre que ça dès qu'on m'interpellait.
Mais personne ne savait. Ouais.
Je suis intègre, je respecte les règles du jeu.
Ok.
Et t'es vachement nul à ni oui ni non.
Alors effectivement, c'est très intéressant. Alors donc la première phase, donc c'est ça, on débloquait ce truc de on n'a plus le droit de dire ni oui ni non. Et la deuxième, c'était les médiums doivent toucher la table de cérémonie lorsqu'ils sont autour d'elle.
Et on a raté. Il faut savoir qu'on n'a pas pu retourner la dernière, donc je comptais le faire devant vous pour savoir ce qu'il y a devant. Un souffle glacial vous saisit. Les âmes qui hantaient ces lieux sont aspirées par la boîte aux esprits. La table de cérémonie frémit. Vous entendez un dernier gémissement, puis plus rien. Vous avez réussi, vous avez sauvé cet endroit.
Ah bah oui.
Vous pouvez prendre un peu de repos avant la prochaine cérémonie. D'ailleurs, est-ce que quelqu'un est parti chercher la carte de cérémonie en haut ?
Hors de question que je retourne.
Ouais. La boîte aux esprits.
La boîte aux esprits, ouais. Ouais,
moi, je pense que c'est Antoine qui doit y aller. Il connaît tous les pièges.
La boîte qui est vachement bien investi les lieux.
Ouais, ça, c'est quelque chose que tu disais au début de l'émission, Antoine, c'est que la disposition des lieux est importante. Dans le je t'en prie si tu veux prendre un micro, Anthony. T'as entendu un bruit?
Ah ok. J'entendais. Qu'est-ce qui se passe? Il y a que moi qui l'entends, personne ne réagit. C'est ça que je faisais une tête. Voilà ça.
Ah d'accord.
Okay. Pile au moment où on te demande d'aller chercher la boîte des esprits, c'est trop bien.
Monté et brûlant.
Okay. Qu'est-ce qu'il disait?
Je disais que
t'es unie.
Je disais que la disposition des lieux était importante.
Bon, il faut comprendre. Déjà, je voudrais, avant même qu'on
ouais, vas-y, explique.
Qui a bien aimé
Bah, tout le monde.
Ouais, tout le monde. Moi, j'ai surkiffé. J'ai passé un super moment. J'ai eu vraiment des moments de peur alors que j'étais que maîtresse de cérémonie.
Faudrait que tu nous expliques le rôle.
Ah ouais, et il y a plein de trucs en fait trop cool. Voilà, je suis trop contente d'avoir choisi ce jeu. Merci d'avoir joué. Franchement, j'ai passé un super moment. Quoi.
Et merci de l'avoir. Ouais,
le jeu, c'est 20 sur 20. Franchement, je trouve excellent.
Ouais, il est exceptionnel.
Claire est d'accord avec nous aussi, on vous entend pas tous les deux là, les deux du fond là.
Et il y en a un, il flippe encore
là. Il a peur, avec sa vaporette là, je sais pas quoi là. Ta créatrice de fumée,
alors que c'est lui qui faisait le plus peur.
Oui, Antoine, oui, c'est clair. Antoine, tu nous as tous fait flipper de...
de fou. Alors
moi, je suis contente d'être tombée sur lui au cours de mes expéditions. Ouais.
Moi, j'aimerais savoir, parce que du coup, j'étais maîtresse de cérémonie, donc je me contentais la majorité du temps, à part une ou deux cartes où il fallait que j'aille un peu voir ce qui se passait, mais lumière éteinte. Comment ça se passait pour vous, déjà, les posséder quand vous partez? Quand je vous dis posséder, partez, qu'est-ce que vous faites à ce moment-là, en fait?
Claire?
Ouais, Claire, parce qu'à chaque fois que je t'ai vu, c'était des trucs de ouf que tu mettais en scène. Tous les gens, ils revenaient, ils disaient, putain, Claire, elle fait trop flipper.
N'ouvrez pas cette porte. N'ouvrez pas cette porte. Je vais plus endormir pendant 6 mois.
En fait, je trouve que parmi les plaisirs qu'on peut avoir dans ce jeu, c'est notamment quand on est un médium, le plaisir un peu masochiste d'être le personnage du film d'horreur, et puis quand on est le possédé, d'être le personnage justement le sadique, quoi, celui qui fait peur.
Exactement.
Et être le monstre du film d'horreur, c'est quand même assez amusant. Et donc, on essaye de trouver une mise en scène adéquate pour transformer la maison en maison hantée. Mmh. Et moi, j'ai beaucoup aimé finalement essayer de trouver comment... comment effrayer le plus possible ceux qui se baladent, puisque rien qu'en imaginant eux déjà ce que je pourrais faire, ils ont peur, donc en découvrant, c'est encore plus amusant.
Et quelles ont été les choses que vous avez préféré mettre en scène, vous, en tant que possédé, vous tous?
Moi, j'avais une carte que j'ai bien aimée, elle n'a pas marché autant que j'aurais voulu, mais c'était ça. D'être devant un miroir. Et il y a le miroir qui est juste en face de nous, d'ailleurs, c'est celui-là que j'ai choisi, qui est dans la grande salle. Et en fait, au moment où quelqu'un, enfin un médium rentre, c'est de dire regarde. J'ai choisi de le dire très fort, je vais pas le faire là pour pas tuer les oreilles de Romaric et de ceux qui nous écoutent.
Donc là on parle vraiment du rôle des pions noirs, c'est-à-dire des possédés, des gens qui ont une carte noire.
Et du coup c'était... Ouais. Je sais pas. Et c'était assez rigolo, et en fait il fallait que on m'éclaire pour que je sois libéré directement et non pas qu'on me parle. Donc une exclamation de peur, n'importe quoi, ça passait. Et ça a fonctionné, j'ai été libéré, mais ça c'était assez rigolo.
Regardez là, c'est intéressant. Donc ta carte noire te disait, vous devez vous tenir devant un miroir. Si on vous éclaire, vous êtes libéré.
Volontairement, c'était m'éclairer volontairement.
Donc on rappelle que le dispositif, c'est que toute la maison est plongée dans le noir et que la seule source de lumière auquel on est droit, c'est à laquelle on a droit, c'est le smartphone, mais uniquement pas la lumière du smartphone, attention, uniquement l'écran. Donc on a une lumière très diffuse.
Et que pour les médiums.
Et que pour les médiums. Les possédés n'ont pas le droit d'allumer leur téléphone. Tout à fait. Donc ça veut dire que toi, ta condition, François, on reprend. Tu devais être devant un miroir. Si c'est tu ça. Étais éclairé, à ce moment-là, tu passais de pion noir à pion blanc.
C'est ça, et je remontais dans la salle de cérémonie.
Tu remontais dans la salle de cérémonie.
Et du coup, c'est important de le dire, on a droit. Une fois qu'on remonte, on ne doit adresser la parole à personne. Dans les règles.
D'accord.
Quand t'es possédé et que t'es libéré, tu dois remonter immédiatement sans parler à qui que ce soit.
Très bien. Ouais. Excellent. Voilà. Et donc là, du coup, ce qui s'est passé, c'est que tu as montré le miroir à Claire. C'est bien clair.
J'ai dit regarde.
Regarde. Elle n'a rien répondu. Elle s'est contentée de t'éclairer, c'est ça.
C'est ça.
Et du coup, t'as été libéré.
Et du coup, j'ai fait merci.
Et ça parti. N'a pas. Et t'as dit merci. Alors ça, c'est important. Les libérer.
Effectivement, quand on est possédé.
Attends, c'est hyper important ça.
Quand on est possédé, donc on a une mission à remplir.
Voilà.
Si on la remplit, très souvent, on va être libéré. Là, on va juste regarder notre médium et dire merci.
Voilà.
Et on s'en va, on remonte. Si on capture, c'est pas le bon terme, mais si on arrive à bloquer le médium avec nous, c'est-à-dire
en transformer en pion noir,
voilà,
à pion blanc.
Le bloc, c'est le terme.
Si on le bloque, il va devoir faire la même chose que nous et on va devoir lui dire « Éteins ta lumière, fais comme moi maintenant. » Et là, il va devoir faire exactement comme nous. Ça a donné lieu à une scène où j'ai cru mourir dans la salle à manger tout à l'heure.
Vas-y, raconte.
J'étais tout content parce que je venais de libérer Claire, qui m'a effrayé. J'ai pu dormir pendant au moins 3 mois. Et donc après, je m'approche dans... Donc il faut savoir que je plante le décor dans une grande salle à manger. Claire est
debout, un peu penché, les bras en croix. Bref, j'arrive à la libérer, c'est extrêmement terrifiant. Et là, je me tourne et je vois Romaric assis en tailleur face au mur. Et à côté de lui, Géraldine assise en tailleur face au mur. Et les deux hurlent.
Je sais même plus ce que vous criez.
Non, l'inconnu est parmi nous, je sais pas.
Alors toi, tu disais l'inconnu est parmi nous et moi, je devais dire tournez-moi.
Honnêtement, alors au début de cette manche, il faut savoir que j'étais à deux doigts de la crise de panique dans l'escalier. Parce que j'ai mis du temps à descendre parce que j'avais un objectif qui devait m'emmener tout en haut, à l'autre bout de la maison, j'étais déjà flippé. J'ai frappé dans un piège d'Antoine, pardon, pour être sûr que c'était pas quelqu'un. Donc j'ai préféré vous faire mal
que
d'avoir
mis
peur.
Sur une chaise, avait mis une couette comme si c'était quelqu'un.
Qui ressemblerait, donc voilà. Bref, donc j'étais tout seul et on cherche descendu du deuxième au rez-de-chaussée et là, j'ai entendu l'inconnu est parmi nous. L'inconnu est parmi nous. Et Romaric, qui faisait je sais plus quoi. Et là, je jure, j'étais à deux doigts.
Tourne-moi.
Et j'étais honnêtement à deux doigts de la crise de panique à ce moment-là.
Alors, il faut savoir que moi, en fait, ça faisait partie des moments où, en tant que maître de jeu, j'ai eu des cartes qui me poussaient à le maître de jeu sur certaines cartes, le maître de cérémonie, pardon. Se déplace dans la maison, a des petites choses à faire et doit y aller de nuit, sans lumière, pour que ce soit encore plus rigolo. Et du coup, j'ai vu, quand je suis arrivée, du coup, Géraldine, Romaric et
François, ouais. On était tous
et
les
François alignés et ils étaient tous en train de se balancer, en train de dire tourne-moi, l'inconnu est parmi nous.
C'est ça.
Et pourquoi? Parce que moi j'avais une carte qui disait en fait en gros je devais me mettre en tailleur contre le mur et dire à la personne qui s'approchait de moi tourne-moi. Si la personne me tournait à droite, elle éteignait sa lumière et elle faisait la même chose que moi. Si elle me tournait vers la gauche, elle était libérée, etc. Et on pourrait se croire que c'est un spoiler, mais c'est pas un spoiler. Parce que Géraldine, t'as eu la même carte que moi.
J'ai eu la même carte qui disait l'inverse.
L'inverse. Donc t'as une chance sur deux de tourner la personne dans le bon sens.
C'est ça.
Ça nous est arrivé d'ailleurs à deux reprises.
Flavie était venue me voir dans le noir 5 minutes avant en me disant à partir de maintenant, tu dois hurler jusqu'à ce que tu retournes à la cérémonie. L'inconnu est parmi nous. Mmh. Et moi, du coup, je me baladais parmi vous dans le noir.
Ouais, c'était épique. Donc, je
et
pense...
toi alors Antoine, s'il te plaît, un moment possédé. Parce que moi je t'ai vu faire peur à plein de gens.
Bah, il y a eu un fail au départ, je crois, c'était caché dans un lit avec les paupières retournées. Je m'attendais à faire un gros screamer, mais personne n'est venu.
Ouais. Ils ont tous été pris avant.
Ouais, c'est ça. Et ensuite il y a eu Te retourne pas avec Claire. Je lui dis de surtout pas se retourner. Je lui répète pendant 10 secondes. Il faut pas que tu te retournes du tout. Et si elle se retourne, je la bloque.
Mais comment tu te débloques dans ces cas-là, dans cette situation-là? J'ai pas compris comment.
Bah, faut pas qu'elle se retourne.
Si elle se retourne pas, c'est bon.
Ça me libère.
Ah, c'est pendant 10 secondes.
C'est long, 10 secondes.
Ah, 10 secondes, c'est très long. Ok, d'accord. Ça y est, j'ai compris.
Ouais.
Ok.
Et après, c'est toi qui es venu, Romaric, du coup.
On s'est tous fait bloquer par ton truc là. Personne n'a compris qu'il fallait.
Moi, j'ai vu la scène.
Surtout qu'il y avait Claire derrière toi.
Impressionnant.
Maintenant, donc je te dis, te retourne surtout pas. Et il y a Claire derrière lui.
C'est génial
parce que plus il y en a qui se bloquent, plus ça devient effrayant et plus t'es bloqué quoi.
Mais t'avais vu Claire dans la pièce?
Non, mais je l'avais entendu. Ça me faisait trop flipper. j'avais entendu qu'il y avait quelqu'un avec toi, mais je savais pas qui c'était.
Et toi, Géraldine, à un moment possédé?
Moi, j'aimais bien les cartes où justement il fallait montrer quelque chose.
Attends, je t'entends pas, Géraldine.
Pardon.
Attends.
Ouais,
si, je t'entends. Attends, c'était très. Oh, putain, je vois rien en plus. C'est quelle idée aussi de jouer dans le noir comme ça? C'est n'importe quoi. Ah, voilà, c'est ça, c'est parce que t'étais. Vas-y, je t'en prie, vas-y, Géraldine.
C'est bon?
Reprends. Oui. Je crois qu'il y a un faux contact sur le micro numéro 4. Mais vas-y, continue, t'occupe pas.
Donc oui, en fait, moi, les cartes que j'aimais bien, la toute première que j'ai eue, où il fallait que je montre, où tu dis « regarde », où tu dois montrer quelque chose, dire « regarde », et en fait, elles sont faciles, parce que tout le monde regarde. Comme n'ouvrez pas cette porte, t'as qu'une envie, c'est de l'ouvrir. Enfin, du coup... Du coup, tu fonces dedans et puis là, c'est facile de bloquer tout le monde, quoi.
En gros, ce qui est génial, je trouve, sur les cartes que vous racontez, c'est que c'est des situations de films d'horreur qu'on connaît tous,
complètement,
qui ont été ludifiées, entre guillemets, et qui permettent du coup, de, sous certaines conditions, de faire des choses. Il y a un vrai côté ludique, en fait. Tu deviens presque metteur en scène, en fait, quand t'es possédé.
Oui, complètement.
Oui, ouais, ouais, il faut bien réfléchir à où il faut te mettre. Il y en a une que j'ai eue, il fallait que je longe les murs. Alors, c'était absolument pas pratique. Je crois que je me suis pris des poils.
C'est tellement drôle.
Et du coup, il fallait me bloquer. Alors, on a réussi à me libérer. Merci, parce que j'en pouvais plus. Mais dans cette maison, longer les murs, c'est compliqué.
C'était, ouais, ouais, c'était marrant, ça, ce truc. On se demandait, mais ça, pourquoi, c'est pas qu'est-ce mal, que fait, ouais, Géraldine,
ça, c'est les cartes-là aussi, où tu dis rien et juste tu montres quelque chose ou tu fais quelque chose. C'est aussi pas mal parce que c'est assez intriguant, du coup. Alors là, on n'a pas forcément peur, mais par contre, c'est hyper intriguant et on se dit comment on fait pour le libérer, quoi. Et souvent, on se met à plusieurs.
Et je trouve même qu'elles sont un petit peu plus amusantes, ouais, parce que moi, la première carte que j'ai eue, c'était la vraie carte du film d'horreur, c'est-à-dire « Faites peur à des médiums ». On me dit « Ok, super, faites peur à des médiums ». Alors, je m'installe au sol, il y a juste la tête qui dépasse de la porte. Je me dis « C'est bon ». Et en fait, j'ai pas eu la réaction vraiment que j'attendais quand j'ai hurlé sur mon trio qui est arrivé mort de peur. Et ce qui leur a fait davantage, ce qui les a davantage effrayés, c'est quand je me suis approchée sans parler, je les ai regardés de près. Et là, vraiment, ils ont commencé à baliser sévère, quoi. Mmh. Parce que le fait de pas parler, pour eux, c'est pire.
En fait, il y a une espèce de synesthésie aussi qui se met en place, c'est qu'on a une mission à faire. On a une mission à réaliser, il faut qu'on remonte blanc là-haut. C'est-à-dire qu'il faut qu'on remonte médium là-haut, si on veut réussir à libérer la maison. Le problème, c'est que quand on est confronté à une situation, donc à un pion noir, donc à quelqu'un de possédé, en fonction de notre réaction, on va perdre ou on va gagner. Et donc il y a une espèce de questionnement qui... C'est là que ça ressemble vraiment à du jeu de rôle d'ailleurs, parce qu'on est vraiment dans cette phase de Maelstrom où on se demande quelle proposition je dois formuler. Est-ce que je dois l'aider ? Est-ce que je dois le... Au contraire, tu vois, quand t'es face à Géraldine qui longe les murs, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Est-ce qu'il faut que je la bloque ? Je sais plus avec qui j'étais à ce moment-là. C'était toi, Claire, qui a eu l'idée de dire « Ok, on va la bloquer. » Est-ce qu'il faut lui parler ? Est-ce qu'il faut lui prendre la main ? Et on se jure, on était autour avec Claire, on était en train de se dire « Qu'est-ce qu'on fait, quoi ? » Vraiment, mais comme dans un jeu de rôle où t'es là, quelle est la proposition ?
En fait, à chaque fois, il faut comprendre quelle est la règle de jeu implicite qui est induite par le comportement du possédé. Oui, et y répondre. Sauf qu'évidemment, comme elle est implicite et induite par le comportement, eh ben, tu peux te tromper. Et c'est ça, en fait, sur ce exactement, sur quoi ça joue. En fait.
Et donc, tu as la peur de te tromper, tu as la peur d'être possédé et donc de ne pas remonter. Parce qu'on pourrait croire qu'être possédé, c'est rien. Mais quand tu dois rester tout seul dans le noir pendant que les autres ils s'amusent dans la pièce de cérémonie, c'est pas rigolo, en fait. Donc, c'est une vraie sanction de rater, en fait, sa mission. D'autre part, on se retrouve aussi en synesthésie dans la mesure où, en fait, que fait un médium lorsqu'il est confronté dans une séance de spiritisme ou quoi que ce soit ? On essaye de comprendre. Il y a cette idée dans la médiumnie que le fantôme est resté bloqué entre deux plans, donc le monde réel et le monde des morts, parce qu'il avait une mission à y accomplir, qu'il n'a pas réussi, qu'il n'a pas accompli. Et donc on va chercher, nous, en tant que médium, à accomplir la mission du spectre pour, en un sens, le libérer. C'est vraiment du sens commun, hein. Ce que je dis là, c'est la vision première des fantômes. C'est la vision qu'on a un peu tous du fantôme piégé entre deux mondes, etc. Donc on est, en tant que médium, dans une situation de comprendre quel est le phénomène, quelle est la problématique existentielle du revenant. Et une fois qu'on l'a saisi, de la résoudre pour lui permettre de se libérer. Et là aussi, pareil, il y a ce côté de, bon, bah, qu'est-ce qu'il fait ? Pourquoi est-ce qu'elle longe les murs ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Lui prendre la main, le bloquer, très bien vu, etc., etc. Ça, c'est intéressant.
Et vous aviez aussi des cartes où il fallait aller déposer vos cartes de mission pour réussir la mission. Et en fait, finalement, il y avait, sur certaines cartes, deux conditions de mission. Réussir le petit gage qui est dessus,
ouais,
et monter tout là-haut pour déposer la carte dans la boîte de cérémonie à l'endroit où ça fait le plus peur.
Alors ça, c'est les médiums qui ont ce genre de cartes ?
Oui.
Ou est-ce que les possédés sauveurs en ont aussi ?
C'est les sauveurs. Donc les sauveurs, on peut peut-être passer au sauveur. Ouais.
Alors parlons maintenant des pions blancs, justement. Ouais, vas-y.
Non, c'est juste pour revenir sur le vocabulaire. Parce que sauveurs comme possédés sont des médiums.
Ils sont tous médiums.
Il y a des objectifs, tu dois interagir avec tous les médiums de la partie.
Ah, merci, très bonne précision.
C'est juste, sur ça.
Ah non, t'as totalement raison.
Et les possédés, c'est pour ça qu'on peut les sauver, c'est parce qu'à la base, ce sont des médiums. mais qui ont raté leur truc. Donc,
D'accord,
mais
okay.
Pas que des ratés, d'accord. Ouais.
Alors, les sauveurs, du coup, carte blanche, donc les pions blancs. Toujours dans cette image des pions blancs et des pions noirs. Hein. Évidemment, il n'y a pas de pions noirs et de pions blancs dans le jeu, on est d'accord. Hein.
C'est des cartes blanches
et cartes noires, exactement. Tu disais, Flavie, qu'ils avaient des cartes à les déposer là-haut.
Ah, ouais, certains ont des cartes où il y a un premier gage à réaliser. En plus de la carte qu'ils vont tirer. Non, peut-être pas.
Si.
Il faut que vous me disiez. Non, ça, il y en a certaines que j'ai pu réaliser.
Moi, je peux t'en citer une.
Parce que moi, j'étais pas sauveuse.
Alors, moi, en tant que sauveur, j'en ai une, par exemple. Donc, je cite un exemple. Donc, j'avais une carte qui me disait. Vous devez dire à chaque médium la phrase suivante, ça va mal finir. Une fois que c'était dit, vous montez à l'étage, enfin vous allez mettre votre carte, vous allez déposer la carte dans la boîte. Comment elle s'appelle la boîte, Flavie ?
La boîte aux esprits.
Boîte aux esprits, très intelligemment faite, puisqu'en fait, les dessins sur la boîte aux esprits sont fluorescents. Et donc, la boîte est visible dans le noir si elle a été éclairée au préalable. Ça, j'ai trouvé ça très malin. Quand je suis arrivé là-haut, dans le bureau, j'ai immédiatement vu en fait les trucs fluorescents. Je me suis dit, putain, c'est quoi ce truc de fou, là ? Et ça m'a fait bien triper, parce que j'étais le premier, en fait, à avoir une mission où il fallait aller à la boîte.
Alors, techniquement, il y a aussi eu Claire, puisque, en fait, moi, en tant que maître de jeu, enfin, maître de cérémonie, mais c'est un peu la même chose, hein,
ouais, bien sûr.
En fait, j'avais des cartes où je devais donner des missions, en fait, à certains sauveurs. Et notamment, pour Claire, à un moment, c'était « tu dois me ramener la boîte de cérémonie ». Et en fait, je savais qu'il y en avait trois, parce que vous aviez eu des questions. Je savais qu'il y avait plusieurs personnes qui devaient aller mettre les cartes dans la boîte de cérémonie. Donc, il y en a qui ont dû essayer d'y aller et pas la trouver. Donc, c'était très drôle. Et quand elle me l'a ramenée, je devais dire « mais enfin, ça va pas à la tête de me ramener cette boîte, ramène-la où elle était ».
Ça. Ce qui m'a fait un premier tour de jeu assez étrange, en fait, parce que j'étais toute seule, j'ai vu personne, j'ai volé une boîte, je me suis fait engueuler, je l'ai ramenée. Et c'est tout, j'ai pas croisé de fantôme.
Attends, ça veut dire que le premier tour de jeu, donc on était médium, donc ça veut dire que... Alors, ah oui, donc du coup, le temps que je dise à tout le monde que ça allait mal finir,
oui.
Toi t'as fait cette mission-là, et j'étais... C'est génial d'imaginer que cette boîte s'est baladée entre deux. Ouais. C'est trop rigolo, ça. Okay. Alors, c'est ce que je voulais dire aussi sur l'intelligence du design du jeu. C'est que, vous voyez les mots rituels. Merci, éteins ta lumière. En fait, ils s'en sont servis dans le design des cartes pour déclencher des événements. Par exemple, il y a certaines cartes qui disent « Si on vous dit merci, alors vous devez adopter un comportement X ou Y ». Et donc du coup, bah, comme le jeu prévoit des mots ritualisés, il peut aussi prévoir en fait des comportements. Et il y a des moments où des cartes se sont répondues. Par exemple, moi je devais fermer des portes, et toi Claire, c'était quoi déjà que tu devais faire avec les portes ?
Ah, je devais en choisir une et interdire au médium de l'ouvrir. Et être suffisamment convaincante pour qu'il ne l'ouvre pas.
Alors que moi, ma mission, c'était au contraire de frapper derrière toutes les portes et que vous les ouvriez. Donc on avait, en fait, le jeu est bien fait parce que les cartes se répondent les unes les autres.
Ouais, c'est comme à un moment, je devais aller chercher un médium, enfin un sauveur même, je crois, et lui dire de dire « un inconnu est parmi nous !» Et sauf que t'es pas la première que je suis allée voir Géraldine, j'ai d'abord chopé Antoine, mais Antoine, il avait une carte qui disait qu'en gros, qu'il fallait pas qu'il cause. Et je lui dis « je vais pas te faire chier, je vais aller chercher quelqu'un d'autre, je vais vraiment pas... » Et ce qui est génial, c'est quand je suis arrivée, en fait, il m'a pas vue, et donc je lui ai dit « hé, Antoine, il fait « ah, quoi ?»
Antoine, vas-y.
J'avais pas vu que tu me suivais, en fait. Puis en plus, c'est dans le noir, quoi.
Bah oui, parce que moi, j'ai pas le droit, en tant que maîtresse de cérémonie, quand je dois partir, je dois pas avoir de lumière.
Bah, t'avais pas expliqué vraiment ton rôle, donc j'ai découvert en live que tu te déplaçais, quoi.
Mais on a eu sur le premier tour de jeu aussi, ou deuxième. Tu nous as suivis à la trace et on t'a pas du tout remarqué, sauf non. Une fois.
Alors, c'est même pas que j'ai remarqué Romaric, c'est que je suis arrivé dans une pièce, je crois que c'est celle-ci.
La bibliothèque.
Il y a eu, enfin bref, je suis arrivé dans une pièce, donc avec mon courage légendaire, et là j'ai vu une ombre ou une lumière, et j'ai eu un moment de bug.
Pas de lumière. Lumière
non, mais j'ai eu une ombre, enfin tu vois, c'était derrière, c'était au niveau d'une fenêtre. Donc,
ouais.
Et bon, enfin, je devais pointer le doigt tous les médiums. Donc je cherchais Romaric que je n'avais pas trouvé. Et j'ai pas trouvé Romaric, j'ai vu une ombre fugace qui est passée comme ça, et en montant la boîte de cérémonie, je fais « putain, j'ai trouvé tout le monde sauf Romaric », il fait « ouais, bah j'étais derrière toi depuis le début
». En fait, c'est ça, c'est que moi, ma carte, c'était « vous devez rester derrière un médium, non, un sauveur ». Ah mais justement, c'est un médium d'ailleurs, je crois, qui était écrit. Moi, pendant toute la partie, j'ai fait la confusion entre sauveur, entre médium et... Pour moi, les médiums, c'était forcément les sauveurs.
Mais c'est
en
pas
fait.
Grave, tu t'es pas trompé puisque les sauveurs étaient aussi des
médiums.
Oui,
oui, oui, c'est vrai. Mais du coup, voilà. Il faudra qu'on parle de la petite confusion qu'il y a eu au début de la partie. Mais, donc moi, mon rôle en tant que possédé, donc en tant que pion noir, c'était de rester derrière, de suivre ce que j'avais compris, c'était un sauveur, sans qu'il m'adresse la parole. Donc dans l'idéal, il fallait que je le suive sans qu'il sache vraiment que j'étais là, tu vois. Donc je t'ai suivi effectivement en bas, mais là, il y a un truc quand même.
C'est terrifiant d'apprendre ça.
Oui, mais là, c'est pareil, il y a un truc qu'il faut dire, c'est qu'on n'est pas à égalité autour de cette table. La maison, c'est la nôtre, à Flavie et à moi. Et donc du coup, moi, malgré tout, je pense que j'ai pas ressenti toutes les peurs que vous avez ressenties. Enfin, je savais par exemple que je pouvais pas passer sur la planche là parce que la planche là elle fait un bruit de grenouille. Là-haut, c'est pareil. Devant le bureau ésotérique, il y a une planche qui fait le même bruit que celle-là, hein, le bruit de grenouille là. Et donc je sais très bien que tu vois quand je suis resté à te suivre, je suis passé systématiquement sur des lieux avec du béton, etc. pour éviter que tu me repères. Et je pense que le fait de connaître la maison fait quand même qu'on est moins effrayé ou moins sensible. Tu vois, si. Je sais pas, t'as eu très peur, par exemple, pendant la partie. En tout cas, t'as bien joué à te faire peur, on va dire, François.
Ah, moi, j'ai eu peur tout du long.
Mais t'aurais été dans ta maison, ça aurait été différent, tu vois.
Oui, enfin, après, chez nous, le salon, il fait 15 mètres carrés, donc on se serait vite trouvé. En fait, tu vois, c'est le. On en parlera peut-être après, mais c'est le micro-reproche que j'ai à faire au jeu. C'est qu'honnêtement, si vous l'achetez pour y jouer dans un appartement étudiant, vous allez vous faire chier à mourir.
Non, mais par contre, il y a des setups dehors.
Mais ça, par contre, ça doit être génial.
Le setup dans la forêt ou dehors, j'ai juste envie de le faire cet été.
Parce que en intérieur, c'est honnêtement pas pour tout le monde. Faut vraiment la surface qui s'y prête. Or vous, il y a la surface et le décor. Mmh. C'est quand même assez fou. Mais voilà, tu peux pas y jouer en intérieur dans toutes les habitations.
Bah, je pense que c'est un peu le grand challenge du jeu, c'est comment entretenir la peur des joueurs. Parce que même après les premiers tours, on se dit ok, je suis habitué. Qu'est-ce qui va me faire peur maintenant ?
Ce qui est rigolo, parce que moi, en tant que maîtresse de cérémonie, est-ce que vous avez, pardon, j'allais embrayer sur le rôle de maîtresse de cérémonie, mais est-ce que vous avez autre chose à dire sur le rôle de sauveur ?
On pourra y revenir au pire, hein. c'est pas forcément... T'avais un truc que j'ai
envie ? Ouais. En fait, au début, tu nous as raconté du coup toute une histoire avec les grattements de...
Ouais, c'est la carte de setup. Ouais.
Voilà, et en fait, celle-là, je trouve que... Alors au début, elle te met dans une ambiance, mais en fait, derrière, elle apporte rien. Parce qu'on suit pas, enfin il y a pas du tout de carte qui suit l'histoire ou tu vois.
Oui, c'est pas faux.
Donc
puis même c'est toujours la même carte de fin.
Ouais, d'accord.
Ce qui est un peu dommage.
Ouais. Oui, mais alors par contre elle peut orienter, ça donne une DA en fait, ça donne une direction artistique.
Oui, c'est ça. Bah, faut que les gens le prennent comme ça. Quoi.
Voilà, c'est ça.
Ils disent bon, alors on est dans une maison où il y a des grincements, ok, donc si on veut faire flipper, faut qu'on fasse des grincements.
Ah, j'ai choisi cette carte là parce qu'en ce moment on a les chats d'Antoine à la maison.
On a eu quelques miaulements.
Et que ça gratte et que ça miaule. Et c'est pour ça que j'ai choisi cette carte.
Ouais, c'est pas. Et d'ailleurs,
à un moment,
il y a eu des grattements.
J'ai hésité avec une autre carte, sachez-le. Et je me suis dit que comme je n'ai pas osé le faire à cause de François, je me suis dit que ce serait aller trop loin. En fait, c'est une carte où il y a une petite. On entend une petite fille.
Non.
Et il y a des photos de petite fille et tout. Et à un moment, j'ai commencé à marrer cet après-midi. J'étais là, putain, je peux faire ça et tout. Je peux choper des trucs à tels endroits avec des bruits de petite fille. Je peux mettre en place des jouets des enfants anciens qui se déclenche et tout. Et,
no
et moi, j'étais
no
prête. Et à un moment, je me suis dit, non, je vais pas faire ça, ça va être horrible pour eux.
Non, mais, c'est horrible.
Mais j'avais prévu, je m'étais dit, ah, pourquoi pas, je peux aller choper des portraits de petites filles, dites bien qu'il y a des portraits un peu partout et tout. Mm. Donc moi, j'étais prête, donc je pense que ce sera un des prochains setups.
Mais en termes de sécurité émotionnelle, là, tu vois, c'est danger. Il y a eu un autre élément de sécurité émotionnelle qui a complètement sauté, c'est cette histoire de « on ne se touche pas ». Au début, tu nous dis, voilà, on ne se touche pas. Et au final, on n'a pas arrêté de se toucher. Hein. Enfin, je veux dire, dans le noir et tout, on s'est culbuté à fond. Géraldine, j'ai pris la main. On est obligé de se tourner. C'est le moment où il y a une carte qui est obligé de se tourner. Donc, en fait, on doit se toucher concrètement.
Ah, par contre, j'avais mis un élément de sécurité émotionnelle qui n'est pas dans le jeu, mais moi, qui m'a semblé obligatoire. C'est-à-dire que les premiers tours de jeu, je m'étais arrangée pour choper des cartes, en fait, où le juge donnait une mission aux gens. et où je me baladais pas et où j'étais en haut en fait avec une au milieu avec une petite bougie que j'éclairais un petit peu pour que s'il y a un souci en fait je sois là pour venir. Et régulièrement j'allais voir François en mode ça va, si tu veux tu te poses tranquille, enfin j'étais prête en fait. Et c'est, ça fait partie du rôle du maître de cérémonie de faire attention, d'être attentif en fait aux jambes, savoir si ça va bien, etc. Ouais. C'est expliqué dans le livret, donc du coup je l'ai vraiment fait. À un moment, au moment de la cinquième, du cinquième tour, j'ai vu que vous étiez à Donf dedans et François m'a dit « Ah non, mais c'est trop bien, on joue à se faire peur et tout ça. » Ok, c'est bon, je peux lâcher les trucs, je peux commencer à faire des trucs un peu rigolos, quoi.
Antoine nous a mis un bruit de... Vas-y, mais raconte ce que tu fais dans le dos de tout le monde.
Moi, j'ai plein d'idées, hein. Je pense que si t'es maître de cérémonie, sur la table à côté, il faut mettre des accessoires. Tu mets des ballons, tu mets des clous... Tu mets des dents si t'en as, une boîte à musique évidemment. Il faut mettre plein de petits accessoires pour les posséder, tu vois, pour qu'ils puissent s'amuser à bait, comme on dit, ouais. Faire des choses. Moi j'ai mis une petite musique de fille qui chuchote quoi dans le noir.
Avec son smartphone. Donc
j'ai hésité à mettre mon smartphone dans un coin, t'es allumé avec genre le puits de Sadako dans Ring. Tu sais, toi tu dis qu'est-ce que c'est que ça et tout, et puis en fait moi je suis derrière toi. Bah,
et ça,
on met
tu
des
vois,
perruques,
c'est...
des faux, ouais, des fausses
c'est
mains.
C'est pile poil le truc de comme je disais tout à l'heure, d'être metteur en scène en fait de ta.
Oui, ça te fait, ça donne
séance,
des
c'est
idées.
C'est la maison des.
J'avais
heureux.
Prévu une perruque, sauf que comme c'est Halloween demain, c'est ma fille l'a repris. J'en avais
j'avoue,
une géniale.
Derrière moi, je sais pas si vous aviez remarqué, mais j'avais mis un attamé. Sur un petit espace, ouais. Quoi, un petit truc rouge, j'avais fait tout un décor.
Je l'ai vu, j'ai vu.
Pour vous mettre dans l'ambiance. Mais en effet, une prochaine fois, c'est une bonne
mais
idée.
Mais elle était très bien, ta table de Ouija. Oui. Là, c'était parfait. Ouais. C'était parfait. C'était la bonne base pour commencer. Les cartes aussi, là, au milieu. Donc, quand, je vous rappelle, hein, quand on finit une phase, on retourne la carte et ça nous donne des contraintes. Alors, le ni oui ni non, je trouve ça. Pas terrible, ouais. Ça fait un peu jeu d'enfant. Ouais. Ouais, c'est un peu enfantin. Mais toucher la table, par exemple, je trouve que c'est une très bonne discipline.
Surtout que le nuit-nuit, tu perds avec Géraldine.
Non, mais puis je trouve pas ça rigolo mais... de. Tu vois, du coup,
dans une séance de spiritisme, quel est l'intérêt, par contre ?
Alors, c'est ça.
C'est ça qu'on peut se poser comme question. Le fait de toucher la table, je te rejoins, c'est vraiment génial.
En fait, il y a un autre truc, c'est que les joueurs et joueuses n'ont pas intérêt à s'auto-sanctionner.
Ouais, et puis en fait, moi, je les ai choisies au hasard, celles-là. J'avais vraiment suivi, en fait. Il y a une méthode de setup, en fait, qui est indiquée. Je l'ai vraiment suivie. Et en fait, il y avait des trucs qui étaient vachement plus drôles, genre les médiums doivent avoir une main devant la bouche, ou les médiums doivent. Ah, c'est toujours autour de la table. Les médiums doivent manipuler et toucher les cartes avec seulement deux doigts. Au moins un médium doit murmurer par quand le mot sauveur est prononcé. Et franchement, il y avait plein de trucs un peu plus fun. Et c'est vrai que le ni oui ni non, j'étais là, oh, c'est nul, j'avais trouvé des trucs beaucoup plus drôles.
Mais l'idée, c'est évidemment de créer une ambiance autour de la table de Ouija. C'est-à-dire, oui. L'idée, c'est de mettre une espèce de pression sur les joueurs.
Celle-là, c'est ma préférée, je te dingue.
Vas-y, raconte.
Au moins un médium doit crier quand le mot possédé est prononcé.
Oui, bah tu vois, moi, j'avais des trucs comme ça, tu vois, c'est ce que je disais. Quand le mot merci est prononcé, tu dois crier jusqu'à ce que la maîtresse de cérémonie revienne. C'est quel enfer, la carte de fou. Et heureusement, oui, mais tu vois, en tant que sauveur, ça implique que du coup, tu vas pas chercher à sauver un possédé rapidement. Tu prends ton temps, parce que s'il te dit, si tu fonces vers le possédé qui te dit merci, tu sais que tu vas devoir crier pendant 3 minutes derrière, et je vais me dire que là, ça va vraiment te pourrir la vie. Donc en fait, il y a tout un tas de gestion aussi du rythme, de découverte des secrets, etc. Et c'est là que je voudrais qu'Antoine nous fasse sa petite remarque. C'est sur la structuration des espaces et des pièces de jeu. Nous, on avait mis la boîte tout en haut. Et nous, on jouait au premier étage. Donc, elle était au second étage. Et donc, la plupart du jeu se passait en bas, au rez-de-chaussée. Donc, en fait,
parce que dans le système de jeu, vas-y. Il est demandé de mettre la boîte aux esprits dans l'endroit qui fait le plus peur de la maison. Et clairement, l'endroit qui fait le plus peur de la maison, c'est là-haut.
C'est le bureau. Donc voilà. Et toi, tu disais, Antoine, que c'était sans doute pensé.
Je pense que c'est un élément de gameplay. La boîte, comment ça s'appelle ? La boîte ?
La boîte aux esprits.
La boîte aux esprits. Il faut imaginer la même maison, mais avec une cave. Ok ? Imaginez la même maison. On démarrerait au grenier, tous, et on mettrait la boîte là où ça fait le plus peur, à la cave. Imaginez une cave à la Blair Witch, ok ? Ouais. Avec de la terre battue et tout, là. Un truc hardcore. avec okay. plein de toiles d'araignée et tout.
Ok, on te suit.
Ok.
Ok, on te suit.
Et du coup, en tant que possédé, on va se mettre sur le chemin qui mène entre le grenier et la cave, sachant que potentiellement un des médiums aura une carte lui dictant de mettre sa carte dans la boîte aux esprits.
Et donc il devra traverser toute la maison. Il y a un côté.
Il sera obligé
fantôme.
D'aller, voilà, c'est ça. Oui, voilà, c'est exactement
c'est
ça. Il y a un toboggan, quoi.
Ouais, c'est ça.
On doit et passer. Là, par contre, comme on commençait au premier, on avait toujours le choix entre bon, est-ce que je vais au deuxième ou est-ce que je vais au rez-de-chaussée, sachant que il y a peu de chances que je fasse les deux. En général, bon, à part si t'as une carte qui t'oblige à aller d'abord au grenier, mais.
Et puis clairement, si t'avais pas une carte qui t'obligeait à aller à la boîte, tu descendais.
Oui, parce que c'est là qu'il y avait le plus de trucs rigolos, quoi.
Ouais, je suis allé en haut parce que là, ça fait peur, tu vois. Ouais. C'est pour ça que je me cachais tout le temps en haut, moi.
Et c'est pour ça que nous, on n'y allait pas.
Mais ouais, j'étais déçu. Vous m'entendez pas crier, venez.
Si, on venait pas pour autant.
Allez, venez.
Alors moi, j'ai fait commis l'erreur d'y aller une fois pour me dire, allez, je vais me confronter à Antoine. Et j'ai regretté. J'ai beaucoup regretté.
La seule fois où j'ai dû monter tout seul là-haut, ça a été horrible. Ouais, je suis arrivé en tremblant dans la boîte pour mettre ma petite carte, là, après avoir crié mes petites phrases rituelles. Ah non, mais c'était...
Antoine, il fait peur.
Tu sais, une fois que après, tu te retournes plus. Tu marches très vite jusqu'au rez-de-chaussée.
Ouais. Je pense que plus tu joues, plus il y a un truc un peu qui se crée méta. Tu vois, là, on commençait. C'était la toute fin. Bon, on savait que c'était la toute fin. Mais il y avait un truc de allez, venez, c'est qu'un jeu.
Bah, tu peux te lâcher plus facilement. Oui, tu sais ce que tu peux faire, en tout cas.
Même moi, j'écris un truc genre la cérémonie commence.
C'était
venez.
Affreux, ça.
La cérémonie est tout en haut cette fois.
Ce qui est génial, c'est qu'en tant que maître de cérémonie, moi, du coup, très souvent, j'étais à l'endroit où il y a la cérémonie et j'entendais des trucs de malades mentaux dans la maison. J'entendais des gens hurler, j'entendais les gens faire. Comme ça, et j'étais là, mon Dieu, mais c'est effrayant. Et moi, j'étais toute seule, j'étais là, mais mon Dieu, je flippe ma race.
On retrouve vraiment, je trouve que. Vas-y, Antoine.
Non, je voulais juste que tu nous racontes, Flavie, du coup, ce que c'était le rôle de maîtresse de cérémonie.
En gros, bah déjà, choisir qui est. Enfin, donner les cartes sauveur et posséder, s'arranger pour que les rôles tournent, c'est vraiment important, je pense. Être là pour répondre à des conseils, donner des rôles, en fait, qui sont indiqués avec les cartes. Les cartes, et surtout, mettre en place un vrai setup. C'est-à-dire que moi, j'ai décidé de pas fermer les. J'ai un moment, je m'étais posé la question de fermer les volets. J'ai pas fermé les volets parce que je voulais que vous puissiez voir à l'extérieur et avoir peur, voire même je me suis posé la question à un moment de sortir et d'aller vous faire peur à l'extérieur, mais en fait vous flippiez déjà vos rages.
Je pense que c'est toi qui aurais eu peur si t'étais sorti.
C'est possible.
Vas-y là, vas-y. J'en regarde.
J'avais peur d'avoir froid surtout. mettre en place une ambiance et en même temps un cadre qui permettait vraiment que tout le monde puisse s'amuser sans trop flipper. C'est pour ça que je vous ai montré les différents lieux de la maison avant et tout. D'ailleurs, c'est un des conseils en fait du livret, d'abord de montrer que chacun voit bien les endroits où on va jouer, etc. Et je pense que le maître ou la maîtresse de cérémonie, elle a vraiment un rôle en fait de sécurité émotionnelle hyper important. C'est-à-dire de s'arranger pour que ce soit toujours à la fois effrayant, mais drôle à la fois, et de jamais dépasser. C'est de rester toujours sur une crête. Et c'est un truc qui est... Il y a deux, trois indications, mais c'est ce qui est expliqué. C'est vraiment essayer de s'arranger pour que les gens passent un bon moment. Donc d'être... Alors, ils n'utilisent pas le terme sécurité émotionnelle, c'est moi qui le dis, mais c'est clairement ce qui est fait, ce que doit faire la maîtresse de cérémonie. Et en même temps... Ils disent vraiment, faut que vous écoutiez, faut que vous voyez ce qui se passe. Et quand vous entendez qu'en gros, ça a l'air d'être passé, que les gens, ils ont eu le temps de faire l'émission, que ça commence à papoter, vous dites que la cérémonie recommence.
Ah voilà,
vous
c'est toi qui décide, il n'y a pas un timer.
Il n'y a pas un timer, c'est moi qui vous écoute. C'est aussi pour ça qu'à un moment, je me suis mise à me balader pour voir si tout le monde... Parce que clairement, le premier tour de jeu, je me suis rendu compte que je n'avais pas laissé, vu que la maison est grande, je n'avais pas laissé... Là, ils disent 4 minutes, mais je pense dans un petit espace. Et là, on avait besoin de 10 minutes, en fait, pour faire les trucs. C'est pour ça qu'on a joué plus longtemps qu'une demi-heure. Et évidemment, bon, bah, tout le monde ne peut pas jouer dans un manoir. Hein. Donc du coup, en fait, il y a un vrai côté. On va essayer de comprendre. En fait, c'est assez ténu de savoir quand est-ce que vous avez fait l'émission. En même temps, de ne pas laisser trop de temps malgré tout. Parce que sinon, tout le monde va avoir le temps d'avoir réglé sa mission. Tu vois, c'est vraiment une gestion du temps un peu gérée, quoi. Et puis ceux qui sont bloqués, ils vont rester bloqués longtemps, du coup. Parce que quand je les appelle, ceux qui sont bloqués... Moi, je dis, la cérémonie recommence, tout le monde doit monter sauf les bloqués. Et on doit faire le vote à main levée pour savoir qui a réussi sa mission. Et seulement après, je rappelle tout le monde pour redistribuer les cartes. Et en fait, du coup, c'est un truc un peu ténu, quoi. Faut avoir beaucoup d'intelligence émotionnelle, en fait, pour faire la maîtresse de cérémonie.
Il y a quelque chose qui est passé devant la fenêtre.
Pourquoi
c'est
je me retourne ?
Alors voilà, en fait, c'est exactement ce truc de jouer à se faire peur, vous voyez, ces petites sensations-là, comme ça. En fait, le jeu est basé entièrement là-dessus, sur ces moments où on
J'avais
a envie...
J'avais 6 ans, quoi, à nouveau.
Mais oui. Mais en fait, moi, j'aurais adoré avoir ce jeu à autour de 20 ans ou 18-17 ans. Je pense que ça, c'est un jeu pour les ados, ça doit être un truc de fou. Mais je trouve que pour les adultes, c'est un peu... Enfin, je sais pas, c'est... On rigole beaucoup quand même.
Ouais, mais attends, moi je suis désolée en tant que maîtresse de cérémonie. Alors peut-être je suis quelqu'un qui a toujours été bon public. Hein. Mais le moment où je suis descendue sans lumière et tout, et où j'ai croisé Claire et où j'ai croisé Géraldine qui faisait des trucs de fou et tout. Mais moi j'avais vraiment le petit flip. Et en plus, moi je peux partir très très loin dans mon imaginaire.
François et aussi, ouais.
On rigole, mais enfin moi c'était du rire nerveux. Mais évidemment, c'est rire ou larme. On savait pas trop si... On rigole parce
oui,
que
c'était pour désamorcer. Un
voilà,
peu
moi ça a été clairement pour enlever une soupape. Hein. Okay. Et à un moment donné, je suis descendu.
Ça, c'est intéressant.
Je descendais l'escalier, j'étais à mi-niveau là pour aller au rez-de-chaussée. Je crois que c'est toi, Jarlie, que j'ai entendu crier ou je sais pas quoi. J'y arrive genre oh, putain merde. C'était j'ai pas trouvé ça drôle.
Moi c'était peut-être parce que j'étais dans ma maison, je sais pas, mais je n'ai pas eu vraiment peur. Par contre, j'étais tellement excité à l'idée de faire peur et d'avoir peur, ça me faisait trop rêver, ça me faisait marrer. Tu voulais ajouter un truc?
Ouais, j'ai eu un moment où en fait, on était trois et vous êtes montés et moi je suis descendue et je suis arrivée ici. Et je dis, mais putain, pourquoi je suis descendue toute seule? Et du coup, j'étais là, je regardais partout.
Alors, ouais, c'est vrai que quand t'arrives en bas, qu'il y a trois possédés et que t'es toute seule, j'avoue que ça doit être impressionnant. François, tu voulais ajouter un truc?
Oui, pour revenir sur la peur, pour le coup, moi, je suis très sensible à tout ce qui est paranormal. Ça me terrifie. Mmh. Tu vois, pour reprendre les films d'horreur, tout ce qui est slasher et tout, genre Scream, machin,
rien à
tirer, je m'en fous, c'est pas grave. Mmh. On parlait de Smile avant le début du podcast. Ça m'a terrifié pendant 2 semaines. La bande-annonce de ça, qui est sortie il y a 5-6 ans, j'ai vu la bande-annonce. Et j'ai eu du mal à dormir pendant 3 semaines. En fait, tout ce qui est paranormal...
T'es pas prêt pour Conjuring.
Hein, mais c'est mort, je regarde pas ça. Mais tout ce qui est paranormal me fout les jetons parce que c'est pas rationnel. Et ce jeu joue sur le paranormal.
Sur le paranormal,
donc
ouais.
Ça, moi, clairement, 100%, ça marche pour moi, ça.
Et le fantastique, surtout. C'est pas de l'horreur. C'est pas un jeu d'horreur. Je sais pas comment il est vendu, mais pour moi, c'est un jeu fantastique.
Non, c'est un jeu fantastique pour moi parce que c'est transformer votre maison en maison hantée et le principe de la hantise, en fait. Ouais. C'est du fantastique. C'est t'entends des choses, t'entends de la respiration, il n'y a rien de clair, en fait.
Souvent, on disait le jeu de rôle, c'est réenchanter le monde. C'est prendre des lieux qui existent déjà et en faire autre chose, imaginer autre chose avec. Là, on est totalement dans le réenchantement du monde, quoi. On prend un lieu et on lui applique... on est presque dans de la réalité augmentée.
Ouais,
et
puis t'as une liberté d'action pour les posséder qui est presque totale, quand même. Tu peux faire plein de trucs. Parce que ta carte te donne un objectif, mais elle te dit pas comment y arriver, ce que t'as le droit de dire ou pas, en général.
Mais je pense qu'il y a un monde dans lequel on joue à ce jeu un peu de façon sérieuse. C'est-à-dire que là, on a joué de façon un peu marrante.
Je pense qu'il faut que la maîtresse de cérémonie elle porte un masque déjà, qu'il n'y ait jamais de hors jeu.
Voilà, c'est ça.
Et qu'on
mais en
soit
fait, comme j'avais des gens qui étaient terrifiés,
ouais, bah,
en
oui,
début
je sais, partie, je sais.
C'était
mais qu'on en parle avant,
question.
C'est quoi la limite, tu
ouais,
vois.
Et ouais, c'est à refaire dans ces conditions-là, par
je pense.
Moi, je pensais à François, je me mettais des limites, moi.
Oui, moi aussi, pareil.
Parce que je me disais, si c'est François, moi, je veux pas faire ça.
J'apprécie.
Bah non, mais c'est vrai parce que
c'est faire semblant de pleurer dans un coin, torse nu.
Non, j'ai pensé un peu aussi à un moment donné. J'ai pas osé le faire.
Là, on y a pensé.
Quand oui. J'étais dans le miroir, j'ai hésité à enlever mon flûte et tout.
François, il est. François,
mais
il est
si, j'avais le temps, je suis descendu tout de suite.
Tu renverses, tu renverses de l'eau sur le visage et tu t'en as partout
ouais,
là, et t'es
après,
là en mode aidez-moi.
Sur qui je vais tomber, quoi.
C'est vrai que tu vois, on l'a joué très soft.
Mais c'était la première fois qu'on jouait aussi.
Voilà, on l'a joué très
enfantin. Et clairement, en fait, là, le début de la partie, vous n'étiez pas prêt pour vivre un truc hardcore. Non. C'est aussi, comme je vous disais, c'est aussi pour ça que je n'ai pas pris le setup avec la petite fille. Alors que franchement, je l'ai lu et j'étais là, oh toi, moi, j'ai juste trop envie. Et en fait, je l'ai pas fait parce que je me suis dit, c'est la première fois et tout, je vais pas vous faire ça, quoi. Par contre, la prochaine fois que si vous voulez rejouer, moi, je suis prête.
Il faut vraiment des gens qui se connaissent très très bien, d'avoir bien vu.
Faut qu'on mette en place un contrat social très clair, etc. Mais là, le contrat social, c'était, et je vous l'ai dit au début, hein, c'était, ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer.
Ça va bien se passer.
Après, pareil. Au niveau des cartes, c'est pas des choses fofolles non plus, tu vois, se tourner, tourner les gens.
Ouais, c'est etc. dans la mise en scène autour du truc voilà, aussi, tu vois, c'est ça qui fait peur en fait. Ouais.
Mais après, il y a des choses un peu caricaturales dans les cartes. Donc c'est ce qui nous fait nous rattacher justement à des films d'horreur et tout ça. Et ce qui fait aussi ce qui crée aussi la sympathie dans le jeu en fait. Et tu te dis, ah oui, ça va, c'est de l'horreur, mais ça reste sympathique. Il y a moyen de faire des cartes beaucoup plus effrayantes.
Bon, maintenant qu'on a joué au jeu, il faut imaginer à 12. Parce que je pense que le sel du jeu, c'est quand on est très nombreux. Parce que là, on se retrouve avec des pièces avec 5 bloqués.
Ah,
qui font
horrible.
Des trucs horribles.
C'est vrai que ça peut être.
Alors, comment ça se passe quand on joue à 12? C'est quoi? C'est 5 possédés, 7 sauveurs c'est toujours.
C'est toujours moite-moite. En fait, ce qui se passe, c'est que quand je donne les cartes, c'est je commence par un possédé à ma gauche et ensuite c'est chacun son tour.
Ok, donc parfois il peut y arriver qu'il y ait plus de possédés que de sauveurs.
Et il faut changer à chaque fois.
C'est ce qu'on a eu ce soir d'ailleurs.
Oui,
à un moment donné, on est parti à 3 possédés.
Je t'entends pas, vas-y. Non.
C'était un peu ce qui s'était passé ce soir. C'est souvent, nous, avec Romaric, on se retrouvait à chasser à 2-3 possédés. Ouais. On pouvait pas faire comme vous et se balader en petite troupe, quoi. On se répartissait le terrain.
Et d'ailleurs, à chaque fois, on s'est séparés.
Oui.
Non. Et pourquoi on l'a fait? Moi, en partie, c'était parce que c'était plus rigolo.
Oui,
plus rigolo.
Ça aide à se mettre dans l'ambiance aussi. Hein.
Être tout seul, c'est sans doute plus marrant. Enfin, je pense être tout seul face à tous les possédés potentiels, c'est plus rigolo, quoi.
C'est ça. Moi, je me souviens, là, ce qui m'a le plus marqué, je pense, c'est vraiment ce premier tour où on m'a dit, va dans le grenier chercher la petite boîte magique toute seule. Et je sais absolument pas à quoi m'attendre et je suis là avec ma petite lampe de poche et je vois tous les petits bibelots du bureau, les petits masques de clown et tout ça, les peintures. Je dis, effectivement,
c'est sympa ici.
On est à l'aise.
Bienvenue à la cellule. C'est ta première fois, tu es content.
J'appelle ça un bizutage.
Et franchement, je ne sais pas quel rôle fait le plus peur. Entre le rôle du sauveur ou le rôle du possédé.
Moi, j'aimerais trop rejouer et faire l'un des deux. Tu vois, faire maîtresse de cérémonie.
Est-ce que vous avez un sentiment par rapport à ça, Claire? Toi, t'as eu plus peur en tant que sauveuse ou en tant que possédée?
Largement en tant que sauveuse parce qu'il y a le mouvement. Et puis, tu sais que les autres, leur seul but, c'est d'avoir une interaction avec toi, mais tu sais pas laquelle. Et je trouve que c'est encore plus déstabilisant au début du jeu, dans le sens où tu sais qu'il y a des codes, des règles par rapport au jeu, mais tu ne sais absolument pas ce que tu dois faire et il y a peu de logique finalement dans les réactions à avoir. Donc je trouve que justement le fait de se déplacer, de ne pas savoir ce qui va t'arriver, ce que tu dois faire dans le noir, ça joue énormément sur le stress.
Je suis assez d'accord avec toi. Moi aussi, mon ressenti de médium est fort. Là, c'est pareil. Le côté, là, d'abord, je vais finir mon tour de table et après, je vous poserai une question. Antoine, en tant que possédé ou en tant que médium, tu flippes le plus?
Médium, non.
Médium,
enfin,
ok.
Je pense, ouais.
Sauveur, pardon, excuse-moi.
Ah oui, sauveur, pardon. Possédé, t'es excité, t'as hâte. Tu me dis, j'espère qu'ils arrivent. Ah, ils arrivent pas, il n'y a pas de lumière, il n'y a personne.
Ouais, mais est-ce que t'es pas excité aussi parce qu'il y a un côté.
La toute première fois où je suis descendu en tant que sauveur, moi j'ai eu un petit frisson.
Possédé, tu veux dire?
Non, sauveur.
En tant que sauveur, un petit frisson, ok.
Non, possédé, pas de frisson, non. T'es plus. T'as hâte.
T'as hâte, ok.
Tu te dépêches vite, ils vont arriver.
François, est-ce que t'es de cet avis?
Je pense que les deux sont très différents. Le plus terrifiant, c'est sauveur. Il y a pas de débat, je trouve. Le possédé a le sel, comme tu disais Antoine tout à l'heure, que c'est toi qui maîtrises ce qui va se passer normalement. Et c'est assez rigolo de pouvoir mettre en place une ambiance et de voir ce qui se passe. Parce que moi, le premier tour de jeu, j'ai été ultra frustré parce que j'étais possédé. Je m'étais planqué là juste derrière le mur dans l'angle du couloir. Et Antoine est passé à 1m50 de moi. Il m'a braqué son téléphone, il m'a pas vu. Donc j'étais ultra frustré qu'il ne pouvait pas pouvoir interagir avec lui. Et toi, je sais pas si tu m'as vu, mais...
C'est marrant,
mais du coup, je trouve que c'est pas du tout le même objectif. Donc, mais niveau terreur, c'est sauveteur, il y a pas, enfin sauveur, il y a pas de débat. Moi, premier escalier que j'ai descendu en tant que sauveur, je tremblais.
Mais je pense que du coup, c'est aussi pour ça, c'est une façon de faire baisser la tension en fait. Le fait qu'on nous dise dans le jeu, c'est clairement dit à chaque fois, c'est pas les mêmes rôles, etc. Parce qu'en fait, du coup, en tant que sauveur, y a la tension qui monte, mais comme ensuite tu passes en possédé, tu retournes en contrôle. C'est aussi une façon de gérer en fait la peur qui me semble hyper intéressante du coup.
Géraldine, même question. Mais
et ben moi, le premier tour, j'étais possédée. Et ben je flippais en fait parce que j'étais toute seule du coup. Il fallait que je me balade dans le noir. Il fallait que je trouve un endroit et après que j'attende. Et du coup, t'entends tout, tu regardes, tu sais pas trop quoi faire, t'es tout seul, t'es dans la maison.
Et tu sais pas trop ce que t'as le droit de faire aussi.
Parce que t'as, voilà, c'est ça.
Tu m'as demandé, est-ce qu'on a le droit de se déplacer ?
Ouais, c'est ça.
Bah ouais, on va se déplacer.
Donc, du coup, ouais, j'étais un peu... Et puis, je savais pas trop où mettre. Alors, je me mettais près d'une fenêtre, mais en fait, il y avait tous les trucs dehors. Alors, du coup, j'ai dit, non, je vais pas me mettre près d'une fenêtre. Après, je me suis dit, je vais me mettre dans le canapé. Mais là, il y avait... Oh non, enfin, il y avait toujours plein de trucs. En fait, j'ai super flippé toute seule au premier tour. Après, ça va, Antoine m'a trouvé. Il a perdu, donc il est resté avec moi. Mais... mais après, c'est vrai que sauveur, j'avoue que souvent, j'allais avec d'autres gens. Mais moi, je suis une flippette de base. Donc,
François, tu voulais réagir à ce que disait Géraldine ?
Non, mais alors, c'est vrai que notre premier tour en sauveur, on l'a fait ensemble, on s'est pas lâché. Mais non, c'était pour revenir sur le premier tour, tour de possédé où tu as eu peur, Géraldine, c'est que je trouve que ce qui t'aide à se calmer, c'est que c'est toi le prédateur.
Non, mais
quand
moi, je suis pas d'accord.
Quand tu es en possédé, c'est à toi de bloquer les autres. Et du coup, ça aide à se canaliser, je trouve. C'est pas... beaucoup moins terrifiant de mon point de vue que ça.
Et toi, t'as eu peur, Romaric,
moi, je posséder préfère, moi, je trouve que posséder, c'est plus impressionnant. En fait, alors, ça dépend du degré de liberté que tu as dans la mise en scène que tu peux faire. En fait, si t'as, par exemple, j'ai pas du tout eu peur quand la mise en scène était imposée par la carte. Par exemple, on me dit, tu t'assois près d'un mur et si on tourne à gauche, si on tourne à droite. Ça m'a pas impressionné. Par contre, quand on me demandait d'effectuer quelque chose comme ce que disait François tout à l'heure, tu dois te mettre devant un miroir et machin, etc. Alors, non, quoique, non, ça c'est encore trop cadré. Mais quand on te laissait de la liberté, comme longer les murs.
Dans le noir.
Dans le noir, effectivement. moi, le coup, là où j'ai le plus flippé, c'est le truc où on m'a dit tu dois suivre quelqu'un sans qu'il ne s'en aperçoive, etc. En fait, il y a quelque chose de l'ordre de tu te projettes dans ce qui pourrait faire peur à quelqu'un d'autre, et en fait, tu te fais peur à toi-même. C'est très étrange, mais c'est-à-dire que plus tu te projettes dans ce qui pourrait faire peur et plus tu fais des mises en scène, plus tu dis mais ça pourrait m'arriver à moi. Et c'est peut-être en train de m'arriver à moi maintenant, en fait.
En termes d'émotion, je crois que c'est l'effet miroir, je crois qu'on appelle ça. Je sais pas, il me semble avoir déjà lu ça, mais ça me dit quelque chose. C'est de l'empathie.
Ouais, alors que quand tu es joueur et sauveur, tu avances dans le train fantôme en ayant conscience que c'est un train fantôme. Donc, tu sais qu'il va y avoir du jumpscare, tu sais que tu vas avoir peur. Il y a une excitation, c'est pas du tout la même chose. Dans un cas, c'est une excitation, et dans l'autre, tu commences à ressentir quelque chose qui est plus de l'ordre de la peur. Claire, tu voulais ajouter un truc ?
Oui, le jeu, en fait, prévoit aussi de renverser parfois un peu ces codes-là. C'est-à-dire, je sais pas s'il y a plusieurs cartes, mais moi, une de mes missions, ça a été en tant que sauveuse de faire peur à un possédé. Donc bah, j'ai évidemment cherché François parce que je me suis dit ça sera génial, plus ça. Facile. Et alors c'est extrêmement drôle parce que justement ce possédé est à fond dans sa mise en scène et il ne prête pas du tout attention à ce que tu peux faire. C'est-à-dire que François, lui, était avec sa chaise, il regardait sa chaise, il me dit assieds-toi. Et il a été extrêmement déstabilisé de me voir moi me rapprocher de lui. Et alors au moment où je me suis précipitée sur lui pour l'attraper, ça a été vraiment un cri de terreur. Quoi. Parce que ce ne sont pas les codes établis à la base. Et ça, c'est très drôle.
Parce que normalement, le sauveur, quand il trouve un possédé, normalement, il se calme, il regarde ce qui se passe et comment il peut interagir sans se faire bloquer. Et là, donc moi, j'étais là, un peu la tête penchée, les yeux grands ouverts, en train de fixer. Ne t'assois pas, ne t'assois pas. Et là, Claire, elle s'arrête, elle ouvre grand ses yeux, elle s'approche et... Et comme tu t'y attends absolument pas, mais j'ai bondi, mais c'est une... Enfin, voilà. Et c'est vrai que ça a été très
mais
perturbant.
Claire, tu devais le faire un possédé ou un médium, ou n'importe.
Un possédé, ouais, je devais interagir avec un possédé parce qu'en fait, s'il avait peur, je le libérais. Et donc, de fait, sa mission à lui était réussie automatiquement.
Ok, donc c'était pour libérer. Mais j'ai remarqué qu'il y avait des cartes où les sauveurs, du coup, devenaient les metteurs en scène de l'angoisse, en fait, de la ronde. Typiquement, moi, j'avais ma première carte, c'était il fallait que je sifflote en permanence un air sinistre.
Tu le faisais exprès, du coup.
Oui, mais en fait, c'est le jeu.
Vous rigolez que j'ai ça au début. Vous devez siffler de façon sinistre jusqu'à la prochaine phase de validation.
Voilà.
Ah, c'était horrible.
Et en fait, tu le sens tout de suite, tu dis ok, donc je vais devoir sauver des possédés, mais aussi le jeu se sert de moi pour créer une ambiance encore plus lugubre. Il y avait d'autres cartes comme ça.
Vous devez hurler si vous entendez le mot merci jusqu'à la prochaine phase de validation.
Bah, c'est moi qui l'ai eu. Ouais.
Voilà, il y en avait un, c'était d'un coup, je me suis précipité vers les autres sauveurs et c'était, j'aurais dit d'éteindre la lumière tout de suite, éteignez la lumière. Bon, ça, je sais pas si ça fait très peur, mais.
Ça va mal.
Vous
finir,
devez faire des bruits étranges et lorsqu'un médium vous regarde, faites comme si le bruit venait d'ailleurs.
Moi, c'est ça que j'ai eu.
C'est très drôle. C'est ça
qu'a eu Gerline. Parce que du coup, comment on se promenait, pardon, comment on se promenait toujours à trois. Du coup, bah, c'était compliqué de faire des bruits et de regarder. Alors, ça a marché sur la première fois où j'ai fait un truc et puis j'ai regardé. Et toi, t'as fait qu'est-ce que tu regardes? Ça vient d'où?
Vous devez annoncer haut et fort « Esprit, fuis, la cérémonie approche !» jusqu'à la prochaine phase de validation.
Mais on sent qu'il y a une idée dans les cartes d'engrenage. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, un doute doit s'installer entre les différents participants. C'est vraiment toi qui as fait ça? Tu sais, comme encore une fois, comme dans ces, quand on faisait des séances de spiritisme quand on était gamin ou qu'on jouait à se faire peur, où il y a des moments où on se demandait, attends, t'as vraiment fait ça? Attends, vous avez entendu? Tu sais, genre, il s'est vraiment passé quelque chose, François.
Alors du coup, c'est peut-être un petit défaut, mais c'est dommage des fois que les sauveurs savent qui est qui. C'est-à-dire, c'est dommage que tu vois, en tant que sauveur,
ouais,
je connaisse
aussi,
le rôle d'Antoine, le rôle de Claire. Mmh. Parce que tu vois, pour l'objectif de Jardine de faire du bruit en tant que sauveuse et dire, t'as entendu ça? Bah c'est dommage en fait que nous on sache qu'elle est dans notre camp. C'est un peu le petit défaut du jeu. Il faudrait peut-être un autre système où toutes les cartes de dos soient les mêmes et que la maîtresse de cérémonie dans ce cas-là nous fasse sortir un peu de manière aléatoire sans qu'on sache qui est qui.
Faut une carte de traître encore à chaque
fois. Ouais, mais ça serait trop bien.
Tu vois, tu crois que c'est un sauveur et en fait non, c'est un possédé. Bah j'ai comme dans les films, hein, je vois des morts, bah normal, t'es mort.
Mais le traître marcherait, mais je trouve que les possédés, en fait, ils sont tellement codifiés que tu les repérerais beaucoup trop vite. Ils ont des mises en scène à construire. Mmh. Pas tout à fait d'accord.
Alors, le décor a beaucoup aidé. Hein. Mmh. Ici, la baronnie, là, nickel. C'est nickel. Mais je pense que si on faisait ça dans un pavillon moderne.
C'est ce qu'on disait au début, c'est plus compliqué.
Petite déco hyper soft, très lisse, tu vois.
Ça dépend.
Il y aura un gros boulot de metteur en scène. Quoi.
Est-ce que tu as vu le dernier Souviens-toi l'été dernier?
Non. Non.
Ça se passe dans un pavillon.
Alors, il y a toujours effectivement.
Comme un poltergeist dans des pavillons tout à fait modernes, bon, construits sur un cimetière indien, mais.
Non, les lieux de l'horreur dépendent vraiment des cultures, tu vois, comme on sait ce qu'on disait l'autre jour avec le Japon, les Japonais ils sont effrayés par les chiottes et les salles de bain, par exemple. C'est leur truc à eux. Tu vois, nous on va être effrayés par les manoirs hantés, traditionnellement, on va être plus. Bon, ça c'est une chose. Mais non, le truc le plus important, c'est le caractère public ou privé du lieu. Ici, on est dans un lieu privé, et donc il ne peut pas survenir d'éléments extérieurs. Je vous jure que vous jouez à ça dehors, dans la ville.
Non, dans
un
la
jour
forêt.
Où il est 3h. Alors, dans la forêt.
Un Blair Witch, moi, je.
Très,
quand
très
vous
bien.
Voulez, on fait un Blair Witch.
Tu joues à ça dans la forêt.
C'est où tu
dans
pousses les troncs d'arbres.
Désaffecté.
Et tu vois la cime des arbres bouger dans le ciel.
En urbex,
viens là.
En urbex, le jeu doit être terrifiant.
Hallucinant. C'est-à-dire
ça
que
doit
tu
être horrible.
Parce que moi, je me souviens d'une fois où on avait fait ça à Beaulieu, rue Xavier Graal à l'époque.
Oh, mais c'était génial.
On avait fait un cache-cache comme ça où l'objectif, c'était de se faire place l'un des autres. On s'était planqué avec, je sais plus si c'était avec Pierre ou avec Cédric. On s'était planqué à côté d'un marécage dans les ajoncs pour faire peur aux autres. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un ragondin qui est venu à côté de nous. On a flippé, mais de fou, quoi. Donc, en fait, le truc, c'est que là...
Et nous, on s'était cachés dans l'école. Parce qu'on jouait à Silent Hill à ce moment-là, et on était rentrés dans le début de l'école, là, juste l'entrée. Et Thomas, il a eu la flip de sa vie quand, quand Ben et moi, on a fait...
Je pense que vraiment, le caractère privé du lieu fait que il peut pas survenir de choses inattendues. Et donc, du coup, ça crée encore moins de peur.
Oui, c'est clair. Que
mais dans un lieu public...
En fait, urbex, oui, c'est une autre histoire.
C'est une autre histoire, parce que tu peux tomber... Nous, à chaque fois que j'ai fait de l'urbex, généralement, tu tombes sur un clochard, un punk à chien qui est là, un graffeur qui est...
Non, puis t'as l'imagination qui foisonne, quoi.
Non, mais oui. Non, mais c'est carrément autre chose, quoi. Et là, du coup, ton jeu, ça devient... Et même eux, c'est-à-dire que même les fréquentations du lieu, en fait... urbain, du squat ou quoi que ce soit, quand ils tombent sur des mecs en train de jouer à Hantise, c'est-à-dire que la peur, elle est dans les deux camps. T'imagines le truc. Donc, je pense que vraiment, le jeu...
J'ai un lieu à Saint-Malo, moi, pour jouer.
Allez, au Parc des
Corbières. À la Varde.
Ouais. La Varde, ouais, mais la Varde, c'est... En fait, alors, oui, ça, c'est un
si,
autre...
Si, si, la pointe de la Varde, là, où il y a les ruines.
Ouais, c'est dangereux, quand même. C'est ouais, vaguement c'est dangereux, mais bon...
Sinon, il y a un entrepôt désaffecté près de Gambetta, en ce moment, là où il y avait notre garde-meuble, il y a quelques années. Mm. Et ils viennent de planquer les portes, mais ça s'ouvre.
Petit conseil de là, François.
Vas-y. Non, mais là, vas-y. Oh,
évidemment, ne le faites pas.
Le bâtiment, il est délabré, mais c'est genre 600 mètres carrés, le bordel.
Le jeu, tu commences les 7 premières rondes, tu joues avec les cartes et le jeu. Tu finis, t'abandonnes les cartes, t'abandonnes les rondes, et juste, tu laisses 3 mecs partir et 3 personnes rester. Non, mais vraiment, non, mais je jure. En fait, très rapidement, le jeu, tu comprends que c'est un support pour partir sur un trip. Mais qu'en fait, ça devient rapidement un jeu de cache-cache de fou, tu vois, où les règles sautent et où ça devient.
Après, quand t'as des règles qui te disent ouvrez des portes, fermez des portes, et que t'es dehors, celles-là, elles sont compliquées. Et il
oui,
y en a
en
beaucoup.
En fait, c'est parce que là, j'ai mis les. Ouais, ça fait partie des rôles de maître de cérémonie. Ah, okay. Désolée. J'ai mis les cartes qui correspondaient à maison.
Ah,
si
oui,
on jouait dehors, en fait, je les retirerais, je mettrais les cartes nature.
D'accord.
Il y a deux.
Ouais, il y a cinq. Il y a plusieurs. Il y en a qui sont pour tout le monde, okay. Pour tous les endroits. Il y a les cartes tête de mort, celles qui font le plus peur. Il y a les cartes nature, les cartes maison et les cartes tactiles.
Ah oui, ok.
Alors, juste la dernière fois que j'ai fait de l'urbex, on a visité une usine désaffectée de farine animale. C'était après la vache folle. Et à un moment donné, le pote qui me guidait dans la ruine ouvre une porte. Et derrière cette porte, c'était une gigantesque chambre froide qui faisait plus de 400, 500, 600 mètres carrés avec des crocs de boucher alignés. Je peux te jurer que là, si on te dit qu'il faut fermer les portes et qu'il faut frapper aux portes, t'as peur. Parce que tu te dis, quand le mec il te dit, bah, tu vois là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas rentrer dans la pièce et je vais condamner la porte en fer et tu vas devoir y rester 5 minutes. Voilà, tu vois, là, tu vois, ça te donne l'ambiance un peu. Donc, ce jeu-là, je pense que on dit la barreau, très cool et tout. C'est vrai que c'est un lieu, mais ça reste un lieu chaleureux, un lieu accueillant, un lieu privé dans lequel il peut à peu près rien se passer. Je pense qu'un jeu comme ça, dans un lieu public, comme celui qu'on décrivait avec François, l'Urbex et compagnie, ça devient une autre mayonnaise. Mais c'est très intéressant. Je trouve le dispositif très intéressant. Antoine.
Je voulais revenir sur le. Alors, c'est un peu rentrer un peu plus dans la technique, enfin,
ouais.
En profondeur, sur le ludisme du jeu, sans aborder tout le GNS là ou GSN, comment
GNS,
tu dis GNS.
Ouais. Gamism, narrativisme, simulationnisme.
En fait, j'ai l'impression, il faudrait faire un tour de table, mais est-ce que quelqu'un autour de la table en avait quelque chose à faire de gagner au jeu?
Ah.
Personne.
Tout le monde s'en fout. Tout le monde fait non de la tête. Hein.
Voilà, tout le monde fait non. Ouais, c'est simulationniste parce qu'en fait, à tour de rôle, on va jouer les méchants, entre guillemets, esprits frappeurs. Et on a tout et en fait, après, on va jouer les gentils. Alors, il y a toutes ces chandelles, on doit gagner au jeu, mais ensuite, on sait qu'on va être possédé. Et on a envie de faire peur, on a envie de bloquer quelqu'un, tu vois. Et j'ai l'impression qu'en fait, c'est un prétexte pour. Il n'y a pas vraiment de ludisme, quoi, dans le jeu.
C'est très intéressant. François, tu levais la main ? Flavie ?
Alors pour moi en fait le pseudo-ludisme en fait il est juste là pour t'amener à continuer à vivre l'histoire. En fait, il y a pas vraiment le fait de gagner l'histoire, c'est juste pour savoir si à la fin du film, en fait, t'as réussi ou perdu, en fait. Là, clairement, même le transformer votre maison en maison hantée, c'est juste du sim. On est là pour vivre, en fait, une histoire de maison hantée. À aucun moment on se juge si on a fait quelque chose ou pas.
Ouais, c'est
bien. À aucun moment, en fait, c'est vraiment un jeu purement simulationniste.
Et à la fin, on a perdu.
Là pour vivre un canon esthétique.
On
le
a
canon
perdu.
Esthétique de la maison
hantée. À la fin, on a perdu. Personne n'a réagi.
Non.
Et on aurait gagné, on n'aurait pas fait « Ouais, on a gagné !»
C'est ça.
En fait, juste, on n'a pas réagi parce qu'on était là « Ok, c'est vrai, on a raté, on est, la maison reste possédée. » T'es là « Bon, bah, game two. » Enfin, bah, le film d'horreur a mal fini, en fait. Mais on n'est pas là du tout pour... En fait, en plus, c'est bien dit que c'est un jeu collaboratif. Et je trouve qu'il est vraiment collaboratif là-dedans. Collaboratif dans le fait qu'on va construire une histoire correspondant à un canon esthétique.
Ça, mais en fait, c'est comme beaucoup de jeux d'ambiance. De la finalité, on s'en fiche. On veut juste... En général, rigoler, là, c'est pas le cas, mais on veut vivre une expérience qui est particulière. Là, c'est très particulier. Mmh. Et ce qui compte, c'est qu'on soit tous dedans, qu'on mette tout en œuvre pour le faire. Quand on est possédé, bah, qu'on fasse le plus de trucs possible, paupières révulsées, langue qui bave, pour faire flipper les copains. Et quand on est sauveur, bah, on rentre dans le rôle du chevalier blanc et on va aller purifier les copains.
Mmh, très intéressant. Antoine, vas-y.
Oui, et on joue au médium qui a pas peur, mais en fait, on a peur.
Et en fait, on se...
Alors, vas-y.
Je sais plus. J'ai oublié. C'est parti. Okay, je sais plus. J'ai oublié.
En fait, donc, à savoir, donc, le GNS. On rappelle rapidement pour ceux qui débarqueraient de la planète Mars. Donc, le GNS, c'est le fait, les propositions créatives, donc développées par sur le forum The Forge. L'idée, c'est que au cours d'une partie de jeu de rôle, on peut avoir différentes motivations, raisons en fait de créer différents moments. Il y a des moments dans lesquels on va être là pour avoir le droit de se vanter, être en compétition les uns les autres, gagner, ça c'est plutôt du ludisme. D'autres moments où on va être là pour créer une histoire tous ensemble, éventuellement même s'interroger, juger l'histoire des personnages qu'on est en train de faire. Et le simulationniste qui est de vivre une expérience avec une direction artistique très forte, respecter un esthétisme, etc. Donc typiquement, par exemple, un jeu comme Donjons et Dragons, si l'objectif c'est de remporter une série de combats et de faire de l'expérience, c'est plutôt ludiste, parce qu'à la fin on a le droit de se vanter d'avoir fait une bonne stratégie. Là où par exemple un jeu comme si je fais Chevalier du Zodiac RPG et que je vous dis c'est très simulationniste, le but du jeu c'est de faire un jeu de rôle comme si on était dans un épisode des Chevaliers du Zodiac, on va plutôt vouloir vivre quelque chose d'esthétique qui va dans le sens des épisodes de Chevaliers du Zodiac. Ici, effectivement, totalement d'accord avec Antoine. On est bien dans un jeu simulationniste puisque l'objectif c'est de se retrouver à respecter l'esthétique de la table de Ouija, du médium, du fantastique, jouer à se faire peur, être dedans.
Et voire même, pour moi ce soir, on a joué à Scooby-Doo en fait.
On a joué à Scooby-Doo.
D'ailleurs, on avait Scooby-Doo et Samy en François.
Total.
Et voilà, on avait la team Scooby-Doo ce soir.
Néanmoins, on a des éléments un peu narrativistes, donc qui vont dans le sens de la création de l'histoire, dans le cas des deux premières cartes, de la première et de la dernière carte. La première carte qui nous dit « il y a une histoire, regardez, c'est celle-là ». Il y a des bruits, des grattages, des machins, etc. Donc on a une amorce d'histoire.
Et moi, je trouve qu'en maîtresse maintenant. De cérémonie, je vis vraiment l'histoire. C'est-à-dire que moi, je me suis vue comme la nana de Conjuring, en fait, qui envoie ses médiums vérifier ce qui se passe, machin. Bon, elle passe dans la team, mais je me suis vraiment sentie, en fait, à fond dans le game.
Si il fallait une histoire, il aurait fallu davantage de prévisibilité dans les cartes. C'est-à-dire que tirer les cartes au hasard, c'est la certitude qu'on est... Par contre, si tu avais commencé à dire que les médiums, à chaque fois, ils sont possédés par des miroirs, et du coup, on aurait dit « Ah, mais en fait, le lieu est hanté parce qu'il y a des miroirs. Il y a un truc autour des miroirs, tu vois. » On aurait commencé à chercher, peut-être même à enquêter pour comprendre l'histoire et éventuellement, ça aurait créé des dilemmes. Je ne sais pas. Que sais-je. En tout cas, clairement, le jeu n'est pas orienté vers le narrativisme. On peut écarter ça, clairement. Maintenant, reste le ludisme et le simulationnisme. Antoine, donc tu plaides pour un jeu qui est orienté vers le simulationnisme.
Non, je plaide pas, mais en...
Mais clairement,
en soi,
c'est la façon
dont
on l'a joué.
En soi, c'est plus un jeu de rôle, c'est plus proche d'un jeu de rôle que d'un jeu de plateau, je trouve.
Alors déjà, ça c'est intéressant.
En termes d'expérience.
Oui, moi je suis assez d'accord. Et après, le truc c'est, est-ce qu'on crée un contenu fictionnel ? On crée des instants, des moments où on joue à se faire peur.
Donc oui.
Est-ce qu'on crée un contenu fictionnel ?
C'est très court. C'est un instantané, quoi.
Est-ce que, par exemple, est-ce que... Moi, je trouve que le jeu... Alors, Là, on peut en discuter.
Le moment où tu pousses
si
la porte.
Si c'était un jeu de rôle.
Et que tu vois qu'il y a une mise en scène. Là, t'es dans le jeu de rôle, non?
D'accord, ok. Oui, il y a moments de jeu de rôle.
Mais ça y est, j'ai trouvé un possédé, il est dans cette pièce, tu le sais, t'as entendu un bruit.
Ok, ok.
Et que tu vois qu'il y a un début de mise en scène et que tu vas te faire sûrement choper.
Mais ça s'inclut pas dans un scénario qui va du premier tour de jeu au septième. C'est peut-être ça que tu veux dire.
Oui, voilà.
C'est-à-dire qu'il y a des moments, tu vois,
des moments entre guillemets scénarisés, comme toi, t'étais très bon pour mettre ça en scène. Mais par contre, t'as pas de. On a le contexte du jeu avec le manoir machin, mais il n'y a pas de scénario qui va du premier tour au septième.
C'est-à-dire que si on avait chacun des personnages, par exemple moi je suis le scientifique, toi par exemple, je sais pas, Géraldine, tu es l'artiste par exemple, tu vois, qui va chercher dans les œuvres une signification. Toi tu es le menuisier par exemple, François, donc tu vois, tu as le côté non moi tout ça existe pas,
bonhomme quoi.
Imagine
ce qu'on a vu ce soir.
C'est-à-dire concret, c'est-à-dire, tu vois, le truc concret. Si on avait eu commencé à avoir des personnages, on pourrait le rajouter. Moi, je pense que le jeu, il est tout à fait patchable pour avoir des sensations de ce genre-là. Et du coup, ça change complètement, radicalement, la proposition. Mais voilà, mais je suis d'accord avec toi qu'il y a des moments, des scénettes, etc. Moi, je dirais quand même. Alors, c'est ça, tu vois, je dirais pas que c'est un jeu de rôle parce que pour moi, il n'y a pas eu de contenu. La création en continu d'un contenu fictionnel malléable. Il y a effectivement des moments. Il n'y a pas un fil rouge, dit Géraldine en dehors des micros, mais effectivement, il manque quelque chose, un liant en fait à toutes ces scènes. Mais par contre, les scènes prises les unes après les autres, je suis d'accord. Et maintenant, le ludisme, c'est intéressant ton truc parce que effectivement, on n'en avait rien à foutre de perdre ou gagner. Sauf à un moment, quand on est en bas et qu'on est confronté au possédé et qu'on se dit, mais putain, mais qu'est-ce qu'il veut que je fasse ? T'as eu cette sensation-là, toi, Antoine, quand tu jouais ? En tant que sauveur, j'entends ?
De ludisme ?
Ouais. Quand t'es confronté à Géraldine qui...
Non,
qui...
le pur moment de ludisme, c'est ni oui ni non.
Oui, c'est vrai. Non, t'as tout à fait raison. Ouais. Mais tu vois, il y a quand même... Je trouve qu'il est important quand même ce ludisme. D'abord, je pense qu'il est rassurant pour les gens qui ne sont pas des rôlistes et qui ont besoin de perdre, de gagner. Pour eux, c'est une motivation intrinsèque à jouer à un jeu. Si on peut pas perdre, si on peut pas gagner, ça n'a aucun sens. Il y a des tas de gens qui sont comme ça. Je pense que c'est aussi un désir d'accessibilité de la part des auteurs du jeu d'avoir fait ça. Premier élément. Deuxième élément, ça, c'est comme l'a dit Flavie, c'est une motivation à agir. Et troisième élément, c'est cette question que tu te poses quand tu es face au possédé, de te dire comment est-ce que je le libère, et etc. Et puis moi, j'ai vraiment eu des moments de déception ludiste. À un moment donné, par exemple, j'étais dégoûté, j'avais libéré un spectre, j'avais accompli ma mission en tant que médium, et je me suis fait... En fait, j'ai voulu trop en faire, j'aurais dû remonter à côté de la salle, j'ai voulu libérer un autre médium en me disant « Putain, je vais réussir 3 missions, tu vois. Grâce à moi, il y aura 3 pouces levés autour de la table. » Et au final, j'ai perdu. Résultat, comme j'ai pas pu remonter, j'ai validé aucune de mes missions. Tu vois ce que je veux dire ?
Ah oui, c'est vrai qu'il y a ça. Si on joue à 10, en fait, tu peux tomber dans le piège de vouloir sauver tout le monde et en fait, patatras.
Et moi, il y a une session où j'avais réussi ma mission en tant que sauveur. J'avais réussi à sauver un spectre. Et en fait, comme un con, j'ai voulu trop en faire. Et du coup, je me suis fait piéger par le dernier. Comme je ne remonte pas, aucun de mes pouces n'a été levé au final, sauf celui du spectre que j'avais libéré. On a perdu 2 points de victoire à cause de moi. À cause de mon côté
greedy. Parce qu'il avait un truc que je lui avais donné, donc j'ai pas pu valider mon petit pouce.
Bah oui, ce qu'il faut dire, c'est que si t'es possédé, tu remontes pas. Donc tu fais pas partie des gens qui votent à la fin et qui lèvent le pouce. Donc si t'as contribué à faire des tas de choses, mais qu'au final t'es pas là à la fin, tu perds ça marche pas.
Et moi j'ai eu un petit moment de frustration, c'est que je savais qu'on allait perdre, parce que ma dernière carte, il fallait que je libère 2 possédés. Et il y avait que 2 possédés. Donc du coup, il fallait que j'aie les 2. Et je suis arrivée devant toi, et il a fallu que je te tourne.
Et
là, c'était voilà.
Perdu, ouais.
Et du coup, je savais, puisqu'il fallait qu'on ait toutes les cartes, enfin tous les pouces levés pour pouvoir gagner à la dernière. Et du coup, j'ai eu ce petit moment. Bon, on a perdu. J'ai quand même eu ce petit mince.
Oui, mais imagine. Alors non.
Mais je mets après, voilà.
Alors peut-être pas, parce que imagine que François soit arrivé derrière. Bon, il s'est foiré, mais il aurait commencé par toi. Et regarde, je te montre le truc. Il commence par toi. Il tourne sur la gauche.
Possédé, ça me libère.
Ça te libère. Du coup, toi, tu sais qu'il faut me tourner sur la gauche. Tu peux me relibérer derrière. Ça fait déjà un possédé de libéré. Et si tu te libères le dernier, en fait, t'avais pas perdu.
Ouais, mais le deuxième était déjà libéré, je crois.
Donc c'était
foutu. Okay.
Oui, mais tu vois, c'était à peu de choses près.
En fait, cette carte-là, quand tu joues à 5 et qu'il y a que 2 possédés, elle est compliquée, quoi.
Je trouve.
Mais c'est bien, tant mieux, ça fait un peu de challenge aussi.
C'est pour moi le point faible du jeu, ce serait de dire que on se retrouve toujours face à une situation de choix qui n'a aucun lien logique. Et c'est finalement lié à ce manque de narration, de récit.
Exactement.
C'est-à-dire que toutes les décisions qu'on doit prendre sont des décisions au hasard. Et moi, c'est ce qui m'a vraiment frustrée, c'est que tu vas prendre une décision sans pouvoir la choisir en ayant réfléchi à la question.
Ouais, c'est vrai que c'est un vrai, vrai problème. Après, il y a des moments où c'est intéressant, par exemple, comme la situation avec Géraldine, où on s'est vraiment éclaté. Mais c'est vrai que tu te dis... Enfin, malgré tout, tu vois, le ludisme nuit quand même là au simulationniste, parce que on était plutôt là avec Claire à se demander ce qu'il fallait faire que vraiment à flipper de mal faire. Enfin, je sais pas comment dire. On était plus tellement. On avait changé de jeu.
On cherchait la clé un peu.
Voilà, on cherchait la clé.
Mais le fantôme n'était pas nuisance en lui-même.
C'est ça, exactement.
Ouais. Ça devenait une énigme. Ouais.
Comme tu me dis, comme c'est un peu aléatoire et comme il n'y a pas de fil rouge, de trucs comme ça, on en est réduit à se dire bon, bah, j'ai perdu, voilà. J'ai mal tiré.
Et en même temps, c'est un pile ou face. Donc effectivement, c'était face, j'ai pris pile, tant pis, quoi. Mais je pense qu'à terme, ça peut générer de la frustration sur les 7 tours, quoi. Parce qu'on se dit, bah oui, ok, j'aurais dû fermer la porte plutôt que l'ouvrir. Bon.
Et alors justement, est-ce que là, il n'y a pas une certaine forme de ludisme, c'est-à-dire que le jeu a une rejouabilité, et donc tu sais, la prochaine fois que tu vois le spectre qui te dit « regarde là », qu'il ne faut pas regarder.
Ben non, parce qu'on a vu qu'il y avait des cartes qui s'inversaient.
Ouais, toutes les cartes, en fait.
On leur contraire.
Ouais, on leur contraire.
Très bien. C'était la question que j'ai... François ?
En fait, est-ce que ce n'est pas au possédé d'essayer de mettre en place, alors ce n'est pas facile, on n'a pas beaucoup de temps, mais un indice, tu vois, sur ce qu'il faut faire ou pas. Tu vois, par exemple, t'es en tailleur, on doit tourner vers la gauche. Je sais pas, est-ce qu'il faut pas que tu trouves un moyen de donner une indication au sauveur sur le sens à faire.
C'est à ça que servirait le ludisme, en fait. C'est à poser les bases.
Peut-être, ouais.
Laisser une feuille, par exemple, ne le tourner pas vers la droite.
Ou ta main, enfin, tu vois, ta main dans un. Enfin, je sais pas. Mais tu vois, est-ce que c'est pas, du coup, ce rôle-là n'incombe pas au possédé ? De laisser le petit indice qui va faire que le sauveur va pouvoir réfléchir et essayer de trouver un semblant de logique.
Ouais, mais quand t'as la carte qui te dit « montrez le plafond » et dit « regarde là-haut », c'est compliqué de donner un indice lui disant « ne regarde pas
». Ouais, j'ai pas les solutions à tout non plus, quoi.
Tu fermes les yeux comme ça, tu te bandes les yeux comme là.
Il fait nuit.
Déjà, j'ai survécu jusqu'à la fin du jeu, me demandez pas plus.
Non, mais c'est vrai que nous, on s'est retrouvés dans le cas avec Géraldine, on a eu la même carte, mais en miroir. C'est-à-dire que toi, tu avais parfaitement résolu mon cas, j'avais ouvert tous les placards de la cuisine, et tu as refermé sans me poser de questions.
J'ai hésité beaucoup.
Et bah, au tour d'après, je trouve Géraldine assise dans la cuisine, tous les placards ouverts, je me dis, moi, je la connais, celle-là, c'est facile. Je commence à tout fermer, et en fait, bah non, il fallait lui parler.
Ah, mais tu vois, je sais pas le langage corporel que Géraldine, parce que toi, tu me fixais au début... Puis dans le doute, j'ai fermé une porte de placard avec le pied tellement j'avais peur. J'étais là en mode hop. Et en fait, tu regardais ce que je fermais et petit à petit.
Oui, mais dans les faits, c'est ton premier geste qui m'a permis de t'accompagner.
Ouais, mais tu vois, je pense.
Si t'avais commencé par me parler, t'aurais perdu.
Ouais. Ah, c'est.
Toi, en tant que MC, quand tu m'as regardé et que tu m'as dit surtout ne me parle pas et que tu m'as suivi pendant tout le truc,
c'est ma carte.
Et il fallait surtout pas que je te parle, on est d'accord.
Bah non, parce que sinon c'était fichu. Je pouvais pas avoir mon pouce.
Ça, c'était ça, en tant que sauveur, avoir le MC, non mais sur ses talons, derrière soi, pendant toute l'exploration. Oui. Non seulement t'as peur de ce que tu vas trouver, mais en plus... C'est pour ça, il y a quand même des trouvailles incroyables dans ce jeu. Tu vois, il y a des petits trucs comme ça où tu fais « Ah, ça, c'est bien vu, quoi ». T'as le maître de jeu dans ton dos, t'imagines, à tout moment... Le maître de jeu, il peut te mettre les mains sur les épaules et te crier dans les oreilles.
Alors moi, ma deuxième carte qui a été comme ça, c'est que je devais réussir à faire peur à deux médiums. Ouais. Et sauf qu'à chaque fois, je passais après qu'ils aient déjà eu peur, donc ça n'a jamais marché. Mais
c'est pour ça que t'es venue dans la cuisine quand j'étais...
Les jumpscares, ça marche à tous les coups dans ce jeu-là, ça c'est clair.
Mais à chaque fois, je passais après, ils avaient déjà eu tellement peur que c'est « Ah non, laisse tomber, je suis déjà passée avec Claire-Antoine. »
La proposition du jeu, elle est clairement, elle est superbe, elle est géniale. Enfin, on renoue avec les jeux, effectivement, quand on était gosse, de jouer à se faire peur et tout. Moi, j'ai toujours rêvé de rejouer à ces jeux-là. T'es vachement déçu de grandir et de ne plus jouer à ça, quoi. Et là, ça me fait plaisir de retrouver ces sensations-là. Maintenant, effectivement, comme tu le disais, Claire, il y a peut-être des patchs à apporter au jeu pour améliorer un peu ce côté.
Mais bon, soyons honnêtes, moi, j'ai passé un super moment.
Ah, moi aussi. Ah, oui. C'est pour ça que je disais 20 sur 20, parce que c'est rare d'avoir des jeux qui te foutent une ambiance
pareille.
Alors,
ça m'a fait penser à un jeu auquel qu'on voulait retrouver et jouer.
J'y ai pensé quand...
Mais en fait, moi, quand j'étais jeune, je jouais à Atmosphere.
Atmosphere.
Avec la cassette.
Je libère de la
pierre. Où à tout moment, il y avait voilà, le MC qui faisait « Stop !» À qui le tour ? Et donc, on avait des trucs, des machins, enfin bon, bref. Mais en fait, ça m'a vraiment fait penser à Atmosphere version plus quand même.
Mieux, parce que quand on s'était renseigné il n'y a pas longtemps, toi et moi, pour choper Atmosphere, en fait, c'est hyper dur. Mais du coup, là, c'est mieux.
Mais avec la boîte, tu vois, avec les cartes et tout. Enfin, j'ai quand même retrouvé, du coup, cette atmosphère-là et ce jeu, quoi.
Alors,
en mieux.
Atmosphere, moi j'y ai rejoué il y a pas si longtemps que ça, quand j'avais 25 ans, donc bon, ici ça commence à faire. Mais ce que je veux dire, c'est que j'y ai joué en n'étant pas un gosse, c'est
oui,
ça que je veux dire.
Mais c'est un jeu pour
et enfant. Quand même, c'est pas génial, quoi.
Bah oui, non, mais on est d'accord,
déjà,
c'est un vrai jeu pour enfants.
Le maquillage du mec sur le jeu vidéo, c'est risible au possible.
Nous on y jouait, on avait 10-12 ans, mais c'est
zéro ambiance, hein. C'est zéro ambiance, hein, je te jure. À y jouer en étant adulte, c'est zéro ambiance. Tu te dis, mais comment on a fait pour jouer à ça? Et c'est pas super, enfin, c'est pas un jeu génial. Enfin, il y a plein de défauts de partout.
Oui, non, c'est d'accord,
c'est nul.
Mais c'est vrai qu'on en a parlé en fait, et ça m'a vraiment fait penser à ce voilà ce que je ressentais quand j'étais gamine et que je jouais à Atmosphère avec mon frère.
Et c'était super innovant pour l'époque, ça,
ah
bah c'est
oui,
clair,
non,
et c'est indéniable. Antoine, tu voulais ajouter un truc?
Non, c'est très bien, c'est très très bien. J'imagine que c'est pas très cher comme jeu en plus. Ces petites boîtes là que je vois.
Tu pourrais être surpris, Flavie, ça coûte combien ça?
Je l'ai acheté cet été, je me rappelle plus.
Alors vas-y, fais péter.
Je vais aller voir sur internet.
D'accord.
C'est un jeu, il me semble, fait par un Québécois qui est connu parce qu'il fait des reviews de jeux de plateau sur YouTube depuis longtemps, très connu, sorti qu'en français le jeu. Et il y a quelque chose qui est bien avec ce jeu, c'est que il y a toute une frange de la population qui font des trucs depuis 10 ans qui sont un peu nouveaux. Alors par exemple, pour ceux qui connaissent le Manoir de Paris...
Et pour un prix de 19,99€.
19 euros, ça va. Tu vois, pour jouer à 10, c'est bien, quoi.
C'est pour un jeu qui a beaucoup de rejouabilité.
Mais si vous aimez avoir peur, il existe des choses comme, par exemple, des grands GN chasse à l'homme dans la forêt.
Découvrir un truc de ouf.
Où on te court après dans la forêt. Il existe des manoirs où t'es dans le noir avec des acteurs.
Oui, il y a une extension.
Où il y a même un safe word et tout. Enfin, il y a
des cabinets, des murmures.
Oui, non, pardon.
Il y a une extension, Antoine. Il y a une extension.
Et ben voilà. Mais pour tous ceux qui adorent ce genre de jeu, il existe des warehouses. C'est connu. Si vous aimez avoir peur, où ça va très très loin. Toi, c'est physique, quoi. Moi, je suis allé avec des potes où il y a une amie carrément, elle pleurait, elle a arrêté le jeu parce que ça allait pas, quoi. Tu vois, c'est. Mais parce que ça peut. Ça va très très loin, quoi. C'est physique, ça te plaque au sol, ça t'insulte, ça te. Mais c'est de l'horreur, hein. C'est des trucs hardcore, tu vois, dans le noir.
C'est,
et
des,
tout.
C'est des GN.
C'est comme des GN, mais
c'est
t'es
des
dans.
Des escape game un peu.
Bah non, il n'y a rien à résoudre. Mais tu vis des trucs, tu vois. Tu vis des choses avec des clowns, avec des psychopathes qui te courent après. Bah, tu veux le frisson de l'horreur, moi j'adore, hein. Mais je peux comprendre.
Je disais des bêtises, en fait, c'est un jeu de rôle qui s'appelle Antise aussi.
D'accord, ok.
Voilà.
Mais sinon, très bien.
Il y a un commerce, on a déjà parlé, mais il y a un commerce du dark tourism.
Du frisson.
Du frisson, c'est des gens qui organisent donc des expéditions à Tchernobyl, par exemple, ou des choses comme ça. Donc il y a... Dans notre société occidentale où on est tout confort, tout protégé, etc., il y a des gens qui veulent avoir des sensations survivalistes, vivre des choses extrêmes. Il y a une clientèle pour ça, clairement.
Bah, l'urbex, ça se rapproche un peu de ça.
Oui, mais
c'est d'imaginer.
Oui, mais ça, c'est du jeu de société. Ce que tu proposes, ça va au-delà.
Non, mais les sensations, elles sont un peu similaires. Je veux dire, ça te met sur cette voie-là. Si t'aimes bien et que tu veux explorer ça.
Voilà. Mais jouer à ça
dans les catacombes, ouais.
Ouais. Non, mais oui. C'est-à-dire, mais complètement. C'est-à-dire que je pense que le jeu est vachement contexte sensitive, sensible au contexte. Je sais plus comment on dit là. Quand en fonction de l'endroit où on y joue, ça c'est pas du tout le même délire, quoi. Et selon aussi si c'est la première fois qu'on y joue ou si on connaît déjà les mécaniques.
Qui joue dans un asile des années 50.
Voilà.
Faut aimer avoir peur. Faut aimer faire peur aussi, je pense.
Faut aimer ressentir des émotions fortes, surtout, je pense. Ouais. Là, d'avoir peur ou pas, je pense qu'il faut aimer être un peu saisi, quoi.
Challenger. Ouais.
Alors, pour ma part, moi, ce que j'aimais bien, c'était le fait que justement, on joue à la maison et que la peur reste toujours sous contrôle. Moi, c'est aussi pour ça qu'il y a certains films d'horreur que je ne regarde plus. Moi, j'aime bien sur ce type d'émotion. Pouvoir rester en contrôle.
Comme quand on joue à l'appel de Cthulhu.
C'est ça, c'est-à-dire que je vais pouvoir rigoler et me dire à un moment tout va bien, ce n'est qu'un jeu. Moi, je ferai pas partie des gens qui iront dans une warehouse, clairement. En plus, sans vouloir, je risque de péter la gueule au mec qui essaye de me péter la gueule et je vais avoir des vrais soucis. Hein. Ce ne sera pas voulu de moi.
Mais ce n'est qu'un jeu.
Ouais.
C'était pour,
il y a un safe word, je le dis, tu vois.
C'était pour de faux, mais Flavie, elle va le défoncer pour de vrai. Hein. J'espère qu'il tient pas trop à ses couilles, ton clown en forme de zombie. Hein. Alors, des petits soucis. Hein. Enfin bon, ça je dis rien. Donc voilà. Mais en tout cas, non, très, très bonne expérience. Merci beaucoup, Flavie, d'avoir acheté le jeu. Merci au créateur du jeu. On a même pas cité son nom. Tu le connais, toi, du coup, Antoine, le nom du créateur?
Je connais sa chaîne YouTube, mais je me souviens plus de son nom.
Le nom, je suis dans l'obscurité.
Oui, c'est
un Québécois.
Le jour, on disait de Géraldine, on se moquait mais elle avait fait ses devoirs et François avait dit on rigole de Géraldine alors que c'est la première à faire ses devoirs. Bah, oui, c'est ça.
C'est là, c'est là. Bienvenue.
Quand on dit que la CELU, c'est vraiment auteur, pas un podcast
d'expert. Auteur Marc-Antoine Doyon et Damien Falcouska. Illustrateur Cowboy Tattoo. Voilà. Développeur Grrr Games.
Marc-Antoine Doyon, c'est lui le youtubeur.
Trop, trop bien. Eh bien, merci beaucoup à toutes
et
à
que,
tous.
Juste avant, juste ouais, désolé, parce compris. Que depuis même au tout début du jeu, je me dois de faire un big up à Alex de la Citadelle, qui est un spécialiste du jumpscare. Et voilà, si et tu écoutes le podcast, je t'embrasse très fort.
Parce que
c'est le spécialiste de « Ah, on va se coucher, ok ». Et c'est là que ça commence, tu vois, ce jeu-là, il commence à ce moment-là. Il va se cacher sous ton lit, il peut attendre une heure que tu t'endormes. Non mais c'est...
Rigoles.
Alex, je t'embrasse très fort, c'est pour toi. Achète le jeu.
Tu rigoles.
Non, je te jure.
Oh là 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 là.
Gros bisous.
L'odeur. Trop fort. Merci beaucoup à toutes et à tous.
Merci.
Portez-vous bien et surtout, jouez bien.
Et bonne Halloween.
Merci.
À bientôt.
Salut, au revoir.
Voilà, c'était le podcast de la Cellule. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux, à vous abonner. À très bientôt.